Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction. Cette semaine avec moi, nous avons Trazom qui fait le pitre. Si vous êtes premium, vous pouvez le voir.
Il fait sa plus belle tête.
Nous avons Carole.
Carole Cantel.
Et nous avons Romain.
Yo.
Un podcast d'actualité qui va revenir grandement sur le jeu qui va faire cette année, je pense.
Le jeu du siècle.
Voilà, on parle déjà de jeu du siècle.
Le jeu de cette année du siècle.
Voilà, du côté de chez Traz et de chez Carole, en tout cas, c'est acquis. Hein, on va en parler juste après.
C'est
on va faire le
lieu.
Sommaire maintenant. Évidemment, on fera le petit Winel File avant ça, mais premier thème, eh bien, c'est Uncharted 4. Ça y est, le test est paru sur Gameblog. Vous pouvez le lire, vous pouvez voir ce qu'en a pensé notre chère Carole. On va en discuter parce que tout le monde n'est peut-être pas d'accord ici au sein eh bien, de la rédaction et dans ce podcast. Vous allez voir, ça risque de faire des étincelles. Le deuxième thème, ce sera un jeu qu'on a beaucoup suivi sur Gameblog, qui a mis 13 ans avant d'arriver sur Steam, c'est Orion, l'héritage des Coriodan, un jeu qui nous vient du Cameroun. C'est pas banal. Et ben c'est moi qui vous en parlais tout
ça.
À l'heure. Avant de finir sur la grosse annonce de la semaine, que dis-je, l'annonce la plus incroyable. Il y a un nouveau Call of Duty cette année.
Ouais.
C'est fou.
No
non
way.
Mais
no.
Je vous jure.
No way.
Il a été annoncé Call of Duty Infinite Warfare, donc dont le premier trailer a été diffusé, qui va arriver avec un bonus, du moins pour certaines éditions, un bonus qui, à mon avis, va faire que Activision a déjà gagné la fin d'année, mais ça on en parle aussi tout à l'heure. Avant ces petites choses là, eh bien nous allons nous diriger vers Romain.
Oui.
Romain, cette semaine, il y a eu du win.
Il y a eu du win et ça nous vient de chez HTC.
HTC, qu'est-ce qu'ils ont fait encore?
HTC, comme on le sait, c'est le producteur du Vive, donc un des premiers casques de réalité virtuelle grand public, entre guillemets.
Ouais.
Et donc, ils ont créé le programme Vive X. Mm-hmm. Et c'est un programme, en fait, d'investissement et de soutien aux sociétés qui veulent faire de la réalité virtuelle. En fait, ils vont injecter, en grande partie eux ainsi que d'autres sociétés, 100 millions de dollars dans ce programme. Et après, ces 100 millions de dollars vont servir à soutenir, genre un soutien technique et des explications, etc., aux entreprises qui veulent faire de la réalité virtuelle, pour offrir un lieu de travail aussi. Et
un hôpital, l'eau courante,
des investissements,
des sandwichs,
des investissements financiers dans certaines startups qui veulent se mettre dans la réalité virtuelle.
Ah oui, ils sont en mécène de la réalité virtuelle.
D'ici quelques mois, ces sociétés qui ont été aidées devront proposer des démos de leur travail. Évidemment, ils font pas ça pour rien. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de très bien, parce que ce dont la réalité virtuelle a besoin maintenant, c'est du contenu. Parce qu'on a vu que la technologie est suffisamment avancée pour fonctionner, pour faire son petit effet, mais maintenant on a besoin de toujours plus d'expériences, et des expériences qui peut-être qui durent un peu plus longtemps et qui est un peu plus riche que des mini-jeux et des démos, etc. Et donc c'est bien que Vive fasse ça, que HTC fasse ça, pardon. Et ça va servir à tout le monde. C'est comme Shuhei Yoshida avait dit, tout le monde en réalité virtuelle, tous les constructeurs sont dans le même panier. Et pour que la réalité virtuelle s'impose d'une manière générale, il faut des expériences, il faut qu'il y ait des développeurs qui créent des choses. Donc
il faudrait que les précommandes de l'Oculus soient respectées aussi.
Alors là, ça serait plus un fail qu'un win.
Voilà,
c'est un autre sujet. Donc je pense que ce programme Vive X, c'est une bonne nouvelle.
Très bien, écoute, en tout cas, c'est 100 millions, ça fait une belle somme à lâcher comme ça dans la réalité virtuelle. Au moins, ça prouve qu'ils y croient.
Ouais, mais tu sais que les outils de développement pour un programme en réalité virtuelle ne sont pas les mêmes que pour n'importe quel jeu. Il y a des nouveaux outils, des nouvelles infrastructures, des nouvelles installations, et tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, il y a certaines sociétés qui ont peut-être beaucoup d'idées, mais pas les moyens de les réaliser. Et donc,
il faut du pétrole aussi.
Voilà, cet argent peut leur donner un coup de main.
Bon,
en espérant que ça mène à des choses bien.
Eh ben, on aura peut-être des résultats d'ici quelques mois. Hein,
apparemment, d'ici quelques mois, sans plus de précision, c'est là où on aura de petites idées de ce qui a été fait avec cet argent.
Très bien. Bon, malheureusement, la vie, comme tu l'as dit, n'est pas faite que de win. Il y a aussi des fails. Et là, je vais me tourner vers Traz en pleine séance de méditation.
Transcendantale.
Traz, que s'est-il passé de totalement failesque cette semaine? À part évidemment Olivier Besancenot, sur lequel tu m'as dit non, je ne veux pas parler de lui, je le déteste presque autant que Darren Tulette.
Non, c'est pas que je le déteste, mais je m'en fous complètement, quoi.
Alors,
c'est pas intéressant.
Quel est le fail de cette semaine?
Fail de cette semaine, ça se passe sur Twitter.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé encore sur Twitter?
Avec GameSpot qui a posté une photo d'un making-of de Cyberpunk 2077 qui date de 2013, un vieux truc. sur ce tweet, on voit une photo d'une jeune fille courvêtue,
ouais.
Très jolie d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Et donc, c'était elle qui avait servi effectivement pour le trailer de 2013 de Cyberpunk, qui était tout à fait extraordinaire.
C'est elle qui avait servi. Tu es sexiste.
Oh,
non,
pas du tout.
Ah non, c'est elle qui a servi. C'est son emploi, voilà, c'est son utilisation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé GameSpot ? En fait, voulait faire un lien avec le fait que The Witcher allait être plus ambitieux. Non,
que Cyberpunk
allait être plus ambitieux que
The Witcher 3. Exactement. Ouais. C'était l'objet du tweet en fait en question, donc avec cette image. Et évidemment, le problème, c'est qu'un éditeur reconnu, un développeur reconnu de Chinese Room,
pièce chinoise en français.
Voilà. Amnesia, D-Rester.
Exactement.
Donc, The Rapture.
Ils n'ont pas fait que de la merde. Donc c'est plutôt bon. Et ils ont sauté sur l'occasion pour justement balancer un petit propos, justement, lui, qui est assez bizarre. Puisqu'ils ont dit que visiblement le jeu était toujours aussi sexiste,
serait au moins aussi sexiste que The Witcher 3,
par l'image en question, que The Witcher 3.
D'accord, donc en conclusion, ils estiment que The Witcher est totalement sexiste, et donc du coup que les développeurs sont sexistes, que tout autour de The Witcher
est sexiste, et que la fin du monde est sexiste.
Les joueurs qui jouent à The Witcher 3 sont sexistes. On est sexistes, donc.
Donc
on est tous sexistes, en fait.
Exactement ça.
Exactement, comme dit Carole, tout le monde joue à ça. Bah voilà, donc c'est assez étrange venant de leur part, quoi, parce que moi, on sait que dans le jeu vidéo, il y a des femmes dénudées ou pas, on sait très bien que bon, ça sert souvent le propos. Mais comme tu disais, dans The Witcher 3, il y a plein de nanas qui sont super bien gaulées, entre guillemets, et qui sont des vrais personnages, quoi.
Oui, puis il y en a d'autres qui sont très moches aussi. Du côté des mecs, c'est pareil.
Tout à fait, mais ça dérange pas quand elles sont moches ou quand c'est des mecs, ça dérange pas. Par contre, effectivement, dès que les nanas sont gaulées,
et quand c'est des jolies filles,
Enfin, là, c'est surtout par rapport à cette image qui est une image de making of, qui est pas. Enfin,
la fille est habillée comme un grandeur nature, en fait, quoi.
Oui, voilà, mais la fille est sexy, mais de là à dire que l'image est sexiste,
c'est que le jeu sera au moins aussi sexiste que.
C'est hors de propos.
Bah, se baser sur une image, sur une seule image pour dire que le jeu sera sexiste, c'est un peu gonflé, mais bon.
Bah, surtout qu'on parle d'une œuvre de fiction, donc ouais, The Witcher, jusqu'à preuve du contraire, si t'as envie de faire quelque chose avec des personnages, enfin avec un équilibre de rapport de force entre les hommes et les femmes qui est peut-être pas à l'avantage des femmes, même si pour ceux qui connaissent l'œuvre de Sapkowski.
Voilà, t'as lu les bouquins et tout.
Moi je peux vous dire que les femmes sont. Enfin. Les femmes sont bien plus à leur avantage que les hommes. Hein. Mmh. Les hommes, c'est des merdes dans la plupart de.
Ça, tout le monde personne n'en parle, merde.
Bah ouais, et même dans le jeu.
Mais si c'est le contraire, ça dérange personne.
Même dans le jeu, tu vois, ok, on peut dire que la représentation de la plupart des femmes qu'on voit dans le jeu est à leur avantage. Après, il faut savoir que les sorcières qui sont dans. Enfin, les magiciennes qui sont dans The Witcher maquillent leur véritable apparence parce que certaines, elles ont genre des centaines d'années, donc c'est des vieux débris, hein, et elles font exprès d'avoir l'air apprêtées pour justement séduire.
En plus d'être sexiste, t'es anti-vieux.
Bah non, mais c'est elles sont.
J'ai même plus envie de te parler.
Après, c'est une autre histoire, mais bon, tout ça pour dire que c'est quand même une œuvre de fiction et qu'effectivement, si c'est une œuvre de fiction en plus qui tire vers le médiéval fantastique, tendance dark, faut pas s'attendre non plus à ce que les femmes ou les hommes, puisque les hommes aussi, hein, ils en prennent quand même un sacré paquet pour leur grade. D'autant qu'il y a aussi des problèmes de thématiques de racisme, et d'autres choses qui sont en compte dans The Witcher. Donc oui, effectivement, c'est peut-être un peu tiré à côté et vouloir s'attirer du buzz à moindre frais de la part de The Chinese Room.
Moi, ce qui m'emmerde un peu dans cette histoire, c'est
qu'il ferait mieux de faire des jeux où on est sûr que quand on appuie sur le bouton pour courir, ça marche,
ça marche
le premier coup.
Exactement.
Pas besoin de chercher.
Oui, il se passe des choses, bien sûr.
Mais moi, ce qui m'embête un peu dans cette histoire, c'est que effectivement, il y a des jeux sexistes. Ça, c'est déjà arrivé. Il y a pas de doute là-dessus.
Non, mais ils sont pourris en général,
mais
ces jeux-là.
Ce qui m'embête, c'est qu'on en arrive à un point où tu peux plus avoir de vision, en fait. Il faut, au moment où tu penses à une idée et que tu penses à faire un truc, il faut que tu réfléchisses à est-ce que ça va avec ces machins,
est-ce que ça va être interprété,
ça est mal vu, tu peux comme ça.
Tu peux plus penser à un univers dans lequel il y aurait des femmes qui seraient jolies, qui seraient sexy ou qui seraient pas forcément au pouvoir, tu vois. Je pense que l'univers qui leur conviendrait peut-être à ces personnes, ce serait l'univers des drow dans Les Royaumes Oubliés, qui est un truc matriarcal où ce sont les femmes qui dirigent et qui zigouillent tous les hommes qu'elles ont pas passé le coup de balai ou truc comme ça.
C'est ça le plus dérangeant, je pense, effectivement, que Romain touche du doigt ce qui est l'essentiel, en fait, dans cette histoire, c'est qu'on ne peut plus penser, on ne peut plus créer des univers sans se demander si ça va pas déclencher faire jaser, en plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde a la parole. Et c'est vrai que c'est dommage parce que justement l'univers médiéval fantastique, les femmes ont toujours été belles, sexy, c'est ça aussi qui fait un petit peu de l'ADN de ces univers, et c'est dommage de taper dessus, surtout effectivement venant d'un studio
bah, qui est quand même assez réputé, quoi.
Ouais. Quand t'as joué au jeu, enfin je sais pas, tu te rends compte quand même que pour les personnages dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même loin d'être des femmes soumises qui se laissent faire par le héros, enfin le héros à côté, il est enfin
Gérard, c'est ne pas connaître le jeu, voilà, que de parler comme ça
est presque ridicule, quoi,
réduire le jeu de Yennefer
ou de Ciri, c'est très réducteur, ouais.
Donc voilà, moi je pense qu'ils ont, pour ma part, je pense qu'ils ont tapé complètement à côté du truc.
De toute façon, le Battleground Toujours Rapture, c'était pourri, il se passe rien, d'ailleurs tout le monde s'est barré, il n'y a plus personne à Rapture, là c'est le bordel. J'avais pas vraiment accroché.
Ouais, je me rappelle, c'est toi qui avais fait le test, hein.
Ouais, c'est moi qui avais fait le test, ouais. Absolument. J'avais pas trop accroché par rapport à The Vanishing of Ethan Carter
et par rapport à The Witcher 3.
Et surtout par rapport à The Witcher 3, même si c'est pas comparable.
Ils sont peut-être jaloux,
genre,
hein, tout simplement.
Ouais. Ça peut jouer aussi.
Ouais.
Bon, écoutez, en tout cas, on verra. Je sais pas si c'est des projets que t'as répondu depuis. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, ils ont toujours pas répondu. Mais j'aimerais bien les voir dire oui, bon, bah allez vous faire foutre. Enfin bref.
Bon. Qui êtes-vous?
Ouais, voilà, ou qui êtes-vous?
Que voulez-vous?
Ou est-ce que vous n'avez pas d'autre chose à foutre? Enfin, bah bref.
Faites des jeux.
Maintenant, au premier thème de cette semaine. Un thème qui va nous faire voyager un petit peu comme tous les thèmes d'ailleurs, hein, de ce podcast hebdomadaire.
C'est vrai,
hebdomadaire.
Tu as raison.
Et là, on va voyager à peu près à travers le monde entier.
Tous les continents du siècle.
Enfin, ça y est, il est sorti. Enfin, pas au moment où on enregistre. Mais il arrive le 10 mai sur PS4. C'est Uncharted 4 A Thief's End qui est censé être, eh bien, la fin de l'aventure pour Nathan Drake,
Nathan.
Le fameux Nathan Drake, le héros de Naughty Dog. Et Carole, tu vas nous en parler parce que toi t'as eu l'occasion de le terminer. Nous on y a joué,
on a joué
aussi
ici,
à la
rédac.
Pouffy a eu l'occasion de le terminer lui aussi, mais il veut pas nous dire, il a raison,
il a pas le droit.
Ce qui se passe vers la fin, qui paraît-il est extraordinaire, mais bon, on en dira pas plus.
On n'est pas là pour spoiler.
On n'est pas là pour spoiler. D'ailleurs, on va rien spoiler du tout. D'ailleurs, on va même pas parler du jeu. On va passer immédiatement
voilà,
au thème numéro 2.
Directement à
non,
Call
alors,
of Duty.
Bon. Uncharted 4. Est-ce que c'est plus qu'une démo technique, ma chère Carole?
Oh, c'est bien.
Parce que
plus
déjà visuellement.
Alors visuellement, écoute, c'est difficile de. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Pour moi, aujourd'hui, c'est le plus beau jeu du monde.
D'accord.
Voilà. Entier ou pas?
Plus que The Order, tu trouves?
Plus que The Order, qui a déjà un level.
Non mais je sais pas si on peut les comparer,
ouais,
parce que c'est quand même deux types de jeux
très élevés, en termes de graphisme, en termes de texture, c'était déjà très beau. The Order, pour moi, c'est Uncharted 4 est plus beau.
Ouais. Je me suis posé la question aussi, évidemment on y pense. Le truc, c'est que effectivement, Uncharted 4 est plus impressionnant visuellement, au sens où les niveaux dans lesquels tu avances ne sont pas aussi fermés que ceux de The Order. T'as beaucoup plus de choses à afficher, et donc forcément c'est une belle prouesse d'arriver à faire ça. Et là en plus dans Uncharted, t'as une telle variété des environnements. Moi j'en suis un peu plus loin que la moitié, et je me suis déjà pris un nombre de claques visuelles assez impressionnant.
Alors pour les premiers qui regardent la vidéo en même temps, la gueule.
J'ai l'impression que c'est un jeu de fin de génération en fait.
Et bien pourtant non, justement.
C'est ce que eux disent, mais c'est vrai que t'en arrives à un niveau de qualité visuelle et d'idées de gameplay, d'interaction avec les environnements, que ça donne l'impression d'une machine qui est totalement maîtrisée par l'équipe.
Et ben en fait non, parce qu'on le verra tout à l'heure, il y a quand même quelques petits défauts, etc. Machin, même un peu technique, bidule, en dehors du gameplay. Bon.
On peut dire que même si c'est très impressionnant visuellement, il y a quand même une lip sync qui est un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait imaginer par rapport à un Quantum Break par exemple, qui lui.
Quantum Break, le lip sync est juste parfaite.
Ultra parfait.
J'ai jamais vu ça.
De ce côté-là,
Des petits décalages parfois. Je sais pas si ça vous a fait cette impression, mais en termes de modélisation des visages, j'ai l'impression qu'elle est pas tout le temps au même niveau. Il y a des scènes où tu te dis punaise, c'est magnifique, et il y a d'autres où tu te dis les visages là ils sont un peu
cartoon,
un peu moins beaux que dans la scène.
C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a différents sous-traitants entre guillemets qui bossent sur
différents passages du jeu.
Après je trouve qu'à un moment donné il faut arrêter de déconner.
Moi je suis d'accord avec Carole, je la soutiens à
1000%. C'est aller chercher le petit défaut détail.
Toujours,
alors évidemment il faut
après,
avoir un
des défauts mineurs qui n'influencent en rien.
Mais c'est vraiment mineur quand tu regardes, il n'y a plus aucune transition entre les cinématiques et le in-game. Je veux dire, il n'y a aucun temps de chargement.
Il y a un chargement au début.
Au tout début, voilà, c'est tout.
Un seul au début.
Et quand tu recharges une seule garde,
une
planté,
seule
quoi.
Seconde, les textures sont, dire qu'elles sont propres, c'est limite
blasphématoire.
C'est limite blasphématoire, absolument, je cherchais le mot. C'est vraiment ultra beau, les jeux d'ombre et de lumière, enfin c'est photoréaliste quand tu regardes
et la variété
Nathan,
des décors,
la variété oui, des
ça.
Décors
pour moi c'est
grandeur.
Ça un vrai jeu d'aventure, c'est que tu voyages vraiment partout, tu fais plein de choses différentes,
c'est ça, tu vois du pays comme on dit, et moi, effectivement les décors sont variés. Alors je veux pas spoiler, mais on va passer on va passer à Madagascar, ça on l'avait vu, ça c'est gigantesque. Alors c'est un monde semi ouvert, donc c'est pas un vrai monde
oui,
ouvert,
non, c'est pas un monde
mais honnêtement le regard porte et t'as pas la sensation d'être, t'es pas bridé en fait, même si c'est pas un monde ouvert, tu peux visiter, aller dans des recoins, explorer, et pour moi c'est ça que j'attends d'un Uncharted. Ça va pas être forcément, on va y venir après effectivement, des séquences de gunfight, ça va être de l'exploration, de l'aventure, des investigations, des énigmes,
des puzzles,
voilà, des puzzles, et c'est ça qui va faire Uncharted. Et là aujourd'hui pourquoi ça n'est pas qu'une vitrine, et bien c'est parce qu'on va retrouver tout ça dans ce quatrième épisode. On va avoir un scénario dense, bien mené, une narration brillante. On va effectivement assister à la fin de Nathan Drake, mais aussi à ses débuts, puisqu'on va avoir des flashbacks dans son enfance, j'en dis pas plus, mais très poussés, très profond, où on va comprendre pourquoi et comment il est devenu le Nathan Drake qu'on connaît, l'explorateur qu'on connaît. On va avoir des personnages forts, des moments de grâce, honnêtement des énigmes vraiment à base de codes pirates, etc. C'est vraiment très immersif. Les dialogues entre les personnages, c'est ultra naturel.
Moi, c'est un des gros points forts du jeu pour moi. Moi, j'y joue en VO. Le naturel vraiment des échanges des personnages. Et en plus, il est en pleine conversation. Par exemple, au moment où tu es dans la Jeep là, qu'on voit à l'écran, et que tu décides de t'arrêter pour aller fouiller le truc pendant que les autres restent dans la voiture, Nathan, il va faire... attendez les gars, deux secondes, je vais vérifier un truc. Et le mec il dit bon bah amuse-toi bien. Et ensuite quand tu reviens il fait bon bah Sully, t'en étais où? Il fait oui c'est vrai. Et là il reprend sa phrase.
Moi aussi,
mais
ça bluffant, ouais.
C'est super naturel,
c'est
et même
incroyable.
Comment ils se parlent dans les niveaux quand en pleine progression. J'ai rarement vu des dialogues qui sonnaient si naturels.
Et en français c'est la même chose. C'est exactement la même chose.
Avec les voix
pour revenir sur la VO, on sent vraiment qu'il y a une complicité en fait entre toutes les personnes qui ont participé au projet, notamment entre Troy Baker et Nolan North.
Ils sont bons acteurs.
Voilà, en plus Nolan North et Troy Baker qui sont, comme l'a déclaré Neil Druckmann il n'y a pas très longtemps, le Pacino et le De Niro du doublage de jeux vidéo.
C'est ça.
Tu sens que vraiment entre eux il y a un truc qui marche bien. Alors ils ont déjà bossé ensemble sur pas mal de jeux, dont Tales from the Borderlands, et là tu sens vraiment que Sam et Nathan, bah il y a un truc en plus entre eux, ouais, et en tout cas dans la VO.
D'ailleurs c'est le doubleur Al Pacino qui fait Nathan.
C'est ça, c'est Sully
pardon.
Qui fait Sully, absolument.
Tout à fait. Ouais. Mais c'est là tu sens vraiment la patte Druckmann, parce que c'est vrai, et ça on le ressentait déjà dans The Last of Us avec cette relation entre Joel et Ellie, et tu ressens vraiment et tu sens
y a
ce
belle
désir
artistique,
voilà, de créer des relations entre les personnages et également entre les protagonistes et le joueur, parce que tu te sens proche, tu te sens vraiment, tu sens qu'il y a un lien entre effectivement les personnages et
c'est
toi,
ça, qu'il y a une histoire, etc.
Et il y a des moments
de
vie, voilà, et c'est ce que Neil Druckmann a apporté à ce quatrième épisode et qu'on n'avait pas forcément peut-être sur les trois premiers opus.
Non, il n'y avait pas ça.
Je confirme
beaucoup moins. Je confirme.
Je vous coupe deux secondes, mais là, ce qu'on voit à l'écran en ce moment, le coup, c'est tout bête, hein, faire passer le 4x4.
Le Troy Baker.
Je trouvais ça génial. Et je trouve c'est super, super bien fait. Le mouvement du câble l'attacher autour de l'arbre.
La physique des voitures.
Pour le coup, c'est vraiment extrêmement.
Alors, moi, j'ai juste un truc sur lequel on va sûrement un peu clasher.
Oh, ça va.
C'est l'intro. Alors pour avoir fait les 9 premiers chapitres pour l'instant du jeu, je trouve que l'intro est totalement en dessous de ce qu'a fait jusqu'ici Naughty Dog, ne serait-ce qu'avec
avec
Uncharted ou avec The Last of Us. Mais là l'intro
c'est difficile de The Last of Us quoi.
Alors
il faut le dire,
que les choses soient claires,
il y a le côté spectaculaire, il y a le contexte spectaculaire avec la tempête, etc. Ok, d'accord,
ne spoilons pas,
mais je veux pas trop spoiler
avec la tempête et le bateau qui coule.
Non mais je veux dire
pignon atomique juste après,
je veux dire on a un contrôle qui est très limité. C'est presque pas épique par rapport à ce que nous avait offert Uncharted 2 ou Uncharted 3.
Alors, je crois que c'est une belle intro, même si techniquement elle est peut-être pas aussi balèze que celle qu'on a vue dans les précédents.
Oui, mais alors attends, The Last of Us, alors sans spoiler encore, parce qu'il doit y avoir encore des, comment dire, des innocents de la vie qui n'auraient pas touché à The Last of Us.
Moi, en l'occurrence.
Par exemple, un innocent de la vie, c'est pour ça que j'ai modéré mes propos.
D'ailleurs, tu me le rends compte.
Mais il a mis du temps à s'y mettre. Mais bref, toujours est-il que fatalement, il est comparé à The Last of Us, mais c'est pas le même jeu.
Moi, c'est plutôt Uncharted 2 qui j'avais de le comparer.
D'accord,
et le 3.
Alors, ouais, mais Uncharted 2, c'est tellement. Mais effectivement. C'est peut-être pas aussi fort, aussi épique que certaines intros, mais je trouve qu'il y a quand même un moment très fort et la manière dont c'est agencé, dont c'est raconté, dont c'est amené, et c'est ça qui fait, je trouve, la force de ce quatrième épisode.
Elle appuie vachement la narration, en fait, c'est logique.
On prend le temps de rentrer dans l'histoire, et c'est ça qui fait que cet épisode est beaucoup plus. Beaucoup plus humain, beaucoup plus vrai, c'est narré d'une manière différente. On dirait un film. Il est en train de bouffer pendant qu'on est en train de travailler.
Il est en train de manger, vous pouvez pas le voir à l'écran.
Mais c'est une histoire, c'est un film, ça va doucement, ça prend le temps de se poser.
Ouais,
et justement, je trouve que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus dense.
Ah, mais je parle pas de ce qui est après. Moi, je te parle juste de l'inscène d'introduction qui est censé être un moment où tu as le souffle.
Chapitre.
Où tu as le souffle normalement qui est coupé parce qu'il arrive quelque chose à Nathan Drake qui est.
Le premier chapitre, tu veux dire
La toute première scène. Donc d'introduction. Avant, tu vois, quand t'as fait le train, quand tu te réveilles dans le train, dans le 2, tu te réveilles dans le train avec une balle sur le, sur le flanc, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Que là, ça dézoome, tu vois que t'es dans un train, tu commences à escalader, t'as une tension, t'as un vrai truc qui se crée. Là, il se passe rien. Pour moi, il s'est rien passé à ce moment-là.
Parce que tu te demandes ce que tu fais là.
Parce que.
Comment t'es arrivé là, quoi, justement?
Je trouve que ça appuie vachement l'histoire.
Non, j'ai eu plus l'impression que.
Après, techniquement, tu peux être de pas, effectivement, d'accord avec ce qu'ils ont fait.
Parce que tu t'attendais à un truc à la Uncharted en mode, mon escalade, on saute, ouh.
Je m'attendais justement à ce que la première scène d'action soit une scène d'action qui soit réussie et qui nous implique vraiment. Là,
l'intro, elle est plus longue que ça.
Oui, l'intro de manière générale, mais juste cette partie-là. Moi, je trouve
elle est très longue d'ailleurs, l'intro, elle fait quasiment deux heures.
Elle fait plusieurs chapitres, l'intro. Et je pense que c'est pour ça, effectivement, que tu as peut-être été surpris, mais je comprends ce que tu veux dire.
Je suis pas surpris, je suis déçu et choqué.
Voilà, mais je comprends. Choqué.
Tout de suite.
Je peux comprendre, mais je pense que justement cette intro et cet épisode, ils l'ont envisagé autrement et que Neil Druckmann a voulu justement mettre l'accent plus sur la narration que sur les.
Moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment l'impression que c'était.
Oui, mais c'est la marque de fabrique des jeux d'aventure de manière générale, avec Tomb Raider, avec God of War ou encore avec Uncharted, c'est de faire un début qui claque justement, un espèce d'appât. Tu vois, pour que le joueur fasse, ok, j'ai pris une tarte au début, je vais avoir envie de continuer immédiatement.
Franchement, t'es pas happé au début en disant, mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je suis d'accord avec Carole.
J'ai eu l'impression de
ça
voir le début.
Ça t'appelle vachement par rapport à l'histoire qui va être racontée.
C'est la totalité de l'intro qui dure effectivement, qui s'étale sur plusieurs chapitres,
oui, ça dure
et qui dure
temps.
Plusieurs heures, qui fait que, j'ai été. Non, je suis pas déçu de cette intro.
J'ai largement préféré tout ce qui vient juste après cette toute première scène.
Oui, parce que techniquement, vous étiez un peu déçu. Mais encore une fois, moi, je trouve que ça appuie vachement la narration. Tu te demandes vraiment ce que tu fous là, où tu vas, qu'est-ce qui s'est passé, non?
Oui,
mais est-ce que tu ressens manette en main, ça marche pas.
Hein, parce que du coup, il y a un flashback, il y a autre chose. C'est plus raconté cette fois-ci.
Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec Carole. Moi, je comprends ce qu'ils ont voulu faire en fait.
Ouais, mais c'est Neil Druckmann, ça n'a rien à voir avec Ami, quoi. Cette chère amie talentueuse.
D'ailleurs, j'ai regardé le générique sans avoir fini le jeu, parce que dans les options, tu peux regarder le générique entier. Il y a une, ça se termine genre sur un écran avec remerciements, cher machin à Ami Hennig.
Voilà. Mais là, c'est vrai qu'après il y a aussi pas mal de nouveautés qui ont vachement dynamisé le gameplay, même si ça révolutionne pas le genre, attention, on reste dans du classique, mais avec effectivement la voiture, le treuil, le fait de
le câble de manière générale,
câble,
quoi, que tu peux lancer
le grappin
fonctionne
vraiment
super bien.
Du sel à l'expérience, c'est tu peux sauter, c'est vachement aérien,
les glissades
tu sautes, tu t'accroches, tu lances le grappin.
Merci d'avoir joué à Tomb Raider en 95, j'ai envie de dire, enfin 96,
ouais, mais c'est mieux fait.
Ouais, mais après c'est fatal tellement comparé, mais encore une fois, pour moi, même les gens qui vont dire que Tomb Raider et Uncharted c'est les mêmes jeux, c'est pas du tout les mêmes jeux. Uncharted, pour moi, c'est plus de l'exploration, c'est un scénario qui est beaucoup plus fort
que
les scénarios de Tomb Raider, et ça n'a rien à voir. Justement, Tomb Raider, c'est beaucoup de gunfight, tu vas avoir de la, du craft, tu vas améliorer tes armes, etc. Alors que dans Uncharted,
comme The Last of Us,
exactement. Alors que Uncharted, c'est vraiment autre chose. Pour moi, Uncharted, ce sont de belles histoires, de l'exploration, des énigmes.
Et t'es transporté, quoi, tout le temps.
Et t'es transporté, tu voyages. C'est l'aventure. J'ai pas forcément besoin, puisque je sais qu'on va y venir. Je sens Romain venir.
Non, j'allais faire une remarque sur autre chose. Il m'a un peu fait penser à Splinter Cell. au dernier Splinter Cell.
Blacklist
bah, les deux derniers, on va dire, ceux qui ont un
Blacklist,
peu changé.
Ouais, ouais.
Au sens où maintenant, t'as cette, ce petit côté infiltration, tu sais, les ennemis peuvent te repérer,
oui,
et t'as la
tu
jauge.
Tu
peux les marquer.
Tout à fait.
Et t'as la, ce que tu pouvais faire
dans
Splinter Cell.
Et t'as la flèche, du coup, tu peux les suivre.
Et t'as
la,
et t'as la jauge.
Parlez pas tous en même temps, merci.
Pardon. Et t'as la jauge de, qui se remplit au fur et à mesure. Enfin, s'ils te repèrent. Si tu restes trop longtemps dans leur champ de vision, t'as la jauge qui se remplit. Et au bout d'un moment, ils finissent par venir voir.
Ça devient jaune.
Et plus loin, et ensuite orange. S'ils te voient vraiment, là, ils se
mettent. Mais moi, je trouve que ça, c'est plus un gadget. Ça. Mais bon.
Mais
ça,
bah, non,
parce
mais
que
ça
tu
permet...
peux très bien de t'en défaire complètement. Et
ah oui,
à côté.
Tout à fait. Mais c'est quand même un gadget que qui t'est.
Bah après, c'est sympa.
Tu te le prends en pleine figure, ouais. Et ça te permet d'appréhender les rencontres, les séquences.
Si tu veux y aller,
si tu veux y aller, infiltration. Exactement ça.
Et je pense qu'effectivement, c'était déjà le cas auparavant.
Moi, je sais pas. J'ai pas tout fait en discrétion pour l'instant. Donc.
Ah bon. Venant de.
Non, je veux dire, je l'ai fait sur certaines parties, mais j'imagine que celui qui arrive à faire tout en discret, il doit avoir
c'est super
un
dur.
Trophée de la mort.
C'est
à la
super
fin,
dur
etc.
parce que t'as pas
donc
de silencieux.
Donc ça a forcément d'intérêt.
Et c'est ouais, c'est,
oui, voilà.
C'est quand même c'est pas fait pour
c'est,
ça.
Je pense que c'est faisable.
C'est faisable. J'ai essayé, mais c'est vraiment dur. Tu peux
mais je
faire
pense
des
que c'est
attaques.
Très dur.
Tu peux dissimuler dans les hautes herbes.
Voilà,
enfin, il y a un petit côté MGS qui est assez qui ouais, rajoute
ça,
un petit
rigolo.
Peu de piment.
Mais ça m'a plus fait penser à Splinter Cell qu'à MGS.
Moi plus MGS, mais après bon.
Ouais, plus MGS vu les décors etc. Mais oui, effectivement, c'est aussi une des nouveautés. Donc quand même, on a un gameplay.
L'infiltration était déjà là depuis un petit moment. C'est juste que là, ils ont rajouté le marquage en plus. Mais dans le 2.
Justement, ça y fait le fait de pouvoir marquer tes ennemis, c'est quand même.
Ouais, mais avant, tu pouvais aussi. Tu pouvais aussi dans les précédents te faufiler et te faire tout le monde sans avoir à sortir le gun.
Bien sûr,
oui,
mais
pouvais,
c'était moins,
bon,
c'était
plus
voilà,
un bug
c'était,
chose, je crois.
C'était moins marqué. Parce
ah bon,
que là,
dans le 2, moi j'ai un souvenir au Tibet où je me suis fait tout le monde sans avoir à sortir un seul gun.
Parce que le Tibet c'est la paix, c'est ça, c'est pour ça que t'as pas voulu tuer.
Exactement,
d'accord. Non, je comprends ta démarche.
Bref, on va passer un peu justement
à la foule, putain, mais merde.
Oui, bon, c'est beau. Ok, on a compris.
Le marché, tout ça, bon sang, le marché, tout le monde l'a vu dans
le
les vidéos.
Non mais c'est mais ça,
c'est,
mais il y a un milliard de PNJ.
T'arrives là, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe?
Tu vois, dans Hitman, on a été un peu, voilà, on s'est dit, wow, y a quand même du monde, ils sont tous différents les uns des autres, ça marche bien. Là, vraiment, tu peux, voilà, on voit là le marché,
ouais.
on peut s'arrêter.
Honnêtement, Carole, c'est un fantasme
non,
ça,
mais
de joueur.
Non mais c'est un truc de fou.
C'est un fantasme de joueur,
tu t'arrêtes à côté
depuis
des
toujours.
Gens, t'écoutes leurs conversations, ça peut durer.
Ne parlez pas en même temps. Ça devient inaudible si vous parlez en même
temps. Vas-y, Carole, vas-y.
Tu peux prendre une pomme, tu la croques, il manque que le goût. Il manque que le goût.
Ouais. Tu la garde dans la main en
la
plus.
La garde
en
dans
VR,
la main. T'as le singe qui va venir sur l'épaule. Enfin bon, on ne peut pas trop en dire.
Ah merde, j'ai pas vu ça. Je suis
dégoûté. Peut-être parce que tu t'es pas arrêté. Mais justement, il y a
putain,
plein.
J'ai loupé plein de trucs.
C'est tellement, comment dire, c'est tellement grand que tu peux passer par plein de chemins différents. Il y a même une scène d'action, mais qu'on avait vu déjà dans un trailer avec la voiture où il y a 5 ou 6 chemins différents, mais qui vont t'amener toujours à bon port. Hein, tous les chemins mènent à Rome. Mais tu peux le faire vraiment à ta sauce.
De manière différente.
Ça, c'est voilà, j'en perds mes mots. On est
5 à y avoir joué à la rédaction, enfin 6 avec Julien. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a tous vécu des trucs un petit peu différents. Bon, après, c'est le même jeu.
Probablement,
mais,
ouais.
Mais tu vois, là, tu me parles du singe, massin sur l'épaule. Moi, je l'ai pas eu, par exemple. Donc, j'ai presque envie déjà de le refaire pour voir ce que j'ai loupé, quoi. Donc,
Je me suis même arrêtée à côté de passants qui discutaient d'une recette typique du pays,
oui,
quoi. Et c'était super intéressant. Je les ai écoutés. Enfin.
Ah, j'ai noté la recette.
C'est hyper immersif.
c'est
beau. Tu vois, et puis tu vois au loin, ton regard porte, c'est-à-dire que tu vas te retrouver dans la ville. Tu regardes au loin et tu dis putain, mais c'est là-bas que je vais me retrouver tout à l'heure. Et puis après, tu te retournes. Mais c'est là-bas que j'étais. Enfin, je veux dire,
c'est exactement ça.
C'est assez fantastique.
D'accord. On parle de la réalisation, tout ça, c'est bien.
Non, mais
le gameplay.
Mais moi j'ai pas. Alors je sais qu'il y a eu. Voilà, c'est
parce qu'on a parlé de l'infiltration, d'accord, mais il y a aussi du TPS, de l'exploration, dont on va y venir après.
Alors je trouve que les séquences de gunfight déjà sont moins. Comment dire.
Moins présentes.
Moins présentes qu'avant.
On
laisse la part belle vraiment à l'exploration, aux énigmes, etc. Et je trouve que c'est bien, c'est un bien.
Moi, c'est ce que je préfère.
C'est pour ça que je joue à Uncharted.
Chacun.
Plus pour ça. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de.
Ils n'ont pas tout changé.
Ils ont, voilà, ça reste du classique. Les séquences de corps à corps, c'est un peu compliqué à prendre en main parce qu'autant tu vas arriver à filer des coups, mais les parades sont un peu. Tu peux parer avec triangle, t'attaques avec carré.
Mais puis ça se répète beaucoup
aussi.
C'est
un peu difficile. Il faut vraiment attendre de te faire choper pour pouvoir te débarrasser de tes ennemis. L'IA des binômes est vraiment très très cool. Puis les mecs sont devenus vraiment indépendants, mais ils arrivent au bon moment pour t'aider, pour attraper les ennemis en mode Royal Rumble.
En même temps,
j'ai pensé à toi en même temps. C'est assez bien fichu, mais effectivement, les parades, c'est perfectible encore. Et il n'y a pas de révolution dans ces séquences-là.
Bah moi, franchement, le corps à corps, c'est pas là. c'est pas ce qui m'a gêné le plus. J'ai trouvé au contraire que c'était plutôt bien fait et qu'en plus ça gérait vachement le contexte dans lequel tu te trouves au moment de l'attaque. Genre si tu attaques et que t'es près d'un mur, ouais, il va le choper, il va le plaquer
tout
au mur.
Fait, ouais.
Si t'es près d'un, d'un précipice, il va avoir tendance à
parler pas en même temps, s'il vous plaît.
Si il est au bord, l'ennemi est au bord d'un précipice, il va avoir assez vite tendance à lui mettre un coup de pied pour le faire tomber ou des choses comme ça. Donc
mais ça se répète énormément au niveau des animations de ce côté-là.
Parle pas en même temps.
Ça m'a pas trop gêné. Moi vraiment, mon point noir avec Uncharted 4, c'est le gunfight. Je trouve que en termes de TPS, il y a bien mieux ailleurs.
Mais
c'est...
on s'en fout.
Mais c'est pas
Romain.
Un TPS.
Non,
mais
on s'en fout
tu
pas.
Vois ce que je veux dire.
Mais si, c'est un TPS.
Le TPS, franchement, c'est qu'un prétexte à la noix.
C'est exactement ça. Tu joues pas Uncharted pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles tu vas jouer.
Je t'aurais dit que c'était un prétexte.
Un Gears, quoi.
Je t'aurais dit que c'était un prétexte s'il y en avait eu qu'une scène de TPS. Là, t'en as quand même super souvent.
Mais non, mais par rapport aux autres Uncharted, franchement,
il y en a beaucoup moins. Il y en a moins.
Mais là, je m'en fous pas. En fait, je m'en fous. Je m'en fous. Je juge pas Uncharted 4 en fonction de ce qu'il y avait dans Uncharted 1. Moi, je te parle de Uncharted 4 en tant que jeu qui sort en 2016. Et je suis désolé, des fans des phases de shoot, il y en a beaucoup. Il nous en montre plein dans les trailers du jeu qu'on voit depuis le début. Et je suis désolé, il y a bien mieux ailleurs. Il y a des moments où je me retrouve avec un ennemi qui continue de tirer dans un muret alors qu'il a aucune chance.
Mais tu vois, moi, j'ai pas eu ça par exemple.
Moi, je l'ai pas eu non plus, j'ai eu aucun
bug. Bah, ou si, alors, parce que les éléments sont destructibles quand même.
Il arrive, mais pas tous.
Beaucoup.
Oui,
beaucoup.
Mais là, moi, je te parle d'un truc qui n'était pas destructible. Là, l'ennemi, il arrive en face de moi. Je lui tire dessus quasiment à bout portant pendant plus de 10 secondes. Il meurt pas. Alors que.
Ça, c'est parce que tu sais pas viser.
Non, c'est pas. En rapport avec.
Excuse-moi,
la...
mais bon.
Non,
mais j'ai jamais eu ce bug, jamais.
Mais c'est. Non,
après,
c'est
là, je dis pas que c'est pas arrivé.
Là, c'est même
mais...
pas un bug, c'est juste que c'est juste
bah, c'est
que
pas
c'est pas super bien fait. Les phases de shoot, elles sont même pas super confortables.
T'as la vie assistée, sinon. Si...
Bah, moi, je l'ai. Justement, j'ai désactivé
bah,
parce que j'en ai pas besoin.
C'est super
bien. Oui, mais dans ce cas, oui, forcément. Alors après, tu mets le jeu en facile.
Non, c'est pour dire que.
Faut le faire en intermédiaire.
Quand tu vises pile poil dans un truc, le mec meurt, quoi.
Oui, si tu fais un headshot, fais un headshot, si t'essayes de lui tirer un peu dans le corps, mais nous on va falloir insister. Et je sais que Poufy, qui est derrière l'écran, a trouvé que les phases de shoot n'étaient pas exceptionnelles non plus. Plumeau est d'accord avec est d'accord avec moi aussi. C'est.
On va faire un club, on va faire une class action même, hein, je pense.
Et ça n'enlève enfin. Je trouve que le jeu est excellent malgré tout.
Mais oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Pour
il
moi,
faut
c'est pas,
pas, il faut pas
c'est
dire.
C'est pas un défaut, quoi. Vraiment.
Mais si, c'est un défaut.
Non, mais je vois ce que
c'est un défaut.
C'est un défaut. C'est un défaut.
C'est un défaut pour Romain.
Mais pour moi, c'est pas un point qui va faire que.
Tu vas lâcher le jeu.
Que tu vas lâcher le jeu déjà, et qui va faire que la note va être moindre. Pour moi, c'est pas un des éléments les plus importants d'Uncharted. Pour moi, le plus important d'Uncharted,
monsieur,
c'est l'exploration. Ce sont les énigmes, les paysages, le voyage.
Intemporel.
Intemporel.
Oui, je disais, si tu veux.
Bah non, tu l'as pas dit. Donc
si tu veux vraiment des phases de chute de la mort, bah t'as le multi pour ça. Et le multi, il est ultra bien fait.
Il est cool. Vraiment. Il est vraiment cool.
Pour avoir joué beaucoup d'heures, voire de jours.
Très nerveux.
Avec, la bêta, franchement,
avec des nouveautés sympas, des pouvoirs magiques.
C'est ultra complet.
C'est
voilà,
vraiment
là,
cool.
T'en as pour ta thune.
Tu peux te servir du grappin. Justement,
joué,
tu peux même te servir du grappin pour
multi,
frapper.
Je suis d'accord. J'aime bien le multi d'Uncharted 4. Mais, malgré tout, Nathan Drake, c'est un héros qui est toujours représenté avec ses flingues. Tous les trailers quasiment ou les séquences de gameplay qu'on nous a montré, il y a des phases de shoot dans le jeu. Moi j'en suis un peu plus loin que la moitié. J'ai eu quand même un certain nombre de phases de shoot.
Oui, bah bien sûr.
Et niveau confort, c'est pas le top. Je suis désolé, c'est pas le top.
Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Mais après, Uncharted, c'est pas vraiment axé sur les gunfights. La preuve, c'est que on trouve les armes sur le terrain. T'as pas de système d'amélioration des armes. Mmh. C'est pas comme dans Tomb Raider où là effectivement tu vas améliorer tes armes. Donc t'attends des séquences qui sont quand même qui font le job parce que t'as amélioré, t'as upgradé, etc.
Et surtout,
là tu trouves des armes. Je pense que les séquences de gunfight elles sont là pour varier. Mmh. La progression pour casser un peu, voilà, exactement.
Et surtout, comme
pour
on
casser
disait...
un petit peu l'exploration,
la routine,
etc.
Si on va en parler de l'exploration, elle est quand même.
Voilà, tu t'ennuies pas une seule seconde.
Mais surtout, comme on disait.
C'est qu'un élément en plus pour moi. Voilà.
Comme on disait tout à l'heure, effectivement, tu peux très bien ne tirer sur personne.
Oui,
c'est chaud, mais c'est possible. C'est pour ça que je dis que c'est un prétexte, moi, les
si les phases de shoot était aussi accessoire que vous essayez de le dire.
Non,
depuis
je dis pas
tout
que c'est accessoire.
Il n'y aurait pas de multi-compétitif sur Uncharted 4.
Mais si, mais ils ont divisé les deux pour moi, c'est tout. Ils ont divisé les deux exprès, justement.
Bah, je suis désolé, mais là, il peut lâcher le micro, Romain, et se casser. Hein. Franchement, vous êtes.
Non,
mais là, il vous a humilié.
Mais pas du tout.
Ah bah si, je suis désolé.
Mais non, parce que justement, pourquoi ils ont fait, ils ont séparé les deux justement. Ils ont fait un multi pour ceux qui veulent shooter comme des porcs.
Moi, c'est pas.
Et le jeu d'aventure normal.
Moi, je ne joue pas Uncharted pour le multi.
C'est pas un TPS, c'est pas un jeu de tir
pour moi. Mais effectivement, aujourd'hui,
c'est un jeu d'action aventure.
T'as du multi dans tous les jeux depuis l'épisode 2. On a effectivement un multi qui fait largement le job, qui est nerveux, qui est efficace. Ou d'ailleurs, on a des paysages qui sont magnifiques. Il y a un léger downgrade, mais c'est pas gênant. Ça marche très bien. Mais tu peux pas comparer avec le solo pour moi. Tu peux pas.
Moi, tout ce que j'ai envie de dire par rapport à ce que Romain vous a asséné dans la gueule, c'est ça. Voilà, exactement.
Mais il nous a rien à
ceci. Ah si, là, il vous a.
Mais je suis sûr que ceux qui nous écoutent.
Moi, je rétorque.
Il y a ceux qui nous écoutent qui diront après.
Pour moi, c'est deux choses différentes. Tu peux pas. Tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer.
Très bien, on peut pas comparer.
Donc, vous aurez appris, chers amis, aujourd'hui, qu'Uncharted n'est pas un TPS.
Bah non, c'est un jeu d'action aventure. Je suis désolé.
Ça fait partie du jeu. Moi, je pense que ça peut avoir son importance, comme ça peut être relégué en arrière pour profiter justement d'une histoire. Et on parlait de l'exploration. Alors, c'est beaucoup d'escalade, beaucoup de grimpettes, je lance mon grappin, je me balance, je me rattrape. Et justement, de ce côté-là, moi, j'ai été bluffé par ce qu'ils ont réussi à apporter comme naturel en fait aux animations.
Tout à fait.
Qui sont beaucoup plus réussies encore que celles du 3 qui étaient déjà mais monstrueuses.
Attends, Romain, il trouve que c'est pourri lui. Il va nous dire un truc là-dessus.
Non, c'est vrai.
L'autre fois, tu m'as pris la tête en disant ouais, quand tu es sur la corniche, quand tu dois aller à gauche, c'est chiant parce que tu peux pas, tu es obligé de tourner la caméra.
Mais tu sais tout le temps quand tu peux faire ce que quand tu peux aller dans une direction.
Bah Romain, non, il peut pas.
À chaque fois.
En fait, tu peux activer ou non le placement automatique de la caméra.
Oui, bien sûr.
Moi, je l'ai désactivé. C'est pour ça que dès que je suis suspendu sur une corniche, il faut bouger la caméra pour qu'il puisse, parce que tu peux pas continuer ton mouvement naturellement. Il faut replacer la caméra et ensuite appuyer pour continuer à bouger.
Bon, faut juste faire un petit effort, c'est tout. C'est pas très grave. Mais toi, tu voudrais que il joue tout seul, il tire tout seul, pour rien faire quoi. Bah ok, non. Je lance la démo. Bah allez-y les mecs.
Bah non, au contraire.
Si.
Moi, j'ai désactivé la visée automatique par exemple. Moi, je veux pas qu'il tire tout seul.
Moi,
président,
mais tire pas tout seul. Il vise tout seul.
Bon, laissez Romain terminer. S'il vous plaît. Arrêtez de
dissiper. Mais il faut tirer et viser, c'est pas pareil.
Non mais bon, on l'a compris,
on a compris.
Il voulait en venir.
Bah non, t'as pas compris.
Non, on parlait de l'escalade là.
Moi je trouve que l'escalade est très réussie. Justement parce que si t'as une pierre qui est un peu en bas, plutôt que de sauter et d'attraper cette pierre, il va se pencher et essayer d'attraper cette pierre naturellement. Il y a beaucoup plus de naturel sur les mouvements d'escalade, etc. Ça, je trouve que c'est réussi.
Et de balancer aussi. Et surtout. Chose qui est très importante, c'est qu'on n'a pas un chemin prédéfini avec des petites marques pour nous dire tiens,
non,
c'est par là qu'il faut
non,
que tu
non.
passes. Là, je me suis retrouvé plusieurs
quand
fois.
Quand même bien marqué.
Je me suis retrouvé plusieurs fois
à aller dans une autre direction.
En général, c'est plutôt bien marqué.
Je suis assez d'accord.
Et avoir un cul-de-sac et me faire ah merde, j'ai quand même fait un détour là. Putain, je pensais que c'était le bon chemin.
Ça m'est pas arrivé.
Je suis assez d'accord, même si disons que c'est pas surligné, c'est pas en surveillance.
C'est un petit peu moins précis qu'avant.
On le voit parce qu'on connaît très bien la série et puis on a les codes du jeu vidéo bien ancrés en tête. Mais effectivement, ça arrivé aussi de me dire attends, il faut que je passe par où effectivement. Mais j'en profite, petite parenthèse, parce que sinon j'ai oublié, le sound design est vraiment incroyable.
La conception sonore
de manière générale.
Je laisse tomber. C'est super beau. Quand tu t'accroches à un poteau, quand tu vas marcher sur la neige, le craquement de la neige, quand tu vas marcher donc sur du gravier.
Moi j'ai pas tout ça parce que j'ai pas un truc sonore de malade.
Les insectes, le bourdonnement d'une abeille, ça et là.
Mais vraiment, t'entends ça parce que
tu me fais flipper
parce que moi j'entends pas ça.
Ah oui.
Parce que je précise, j'ai pas de truc sonore de la mort.
T'as des voix dans ta tête, t'entends d'autres choses.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs,
Jean d'Arc.
Tue plume.
Mais c'est vraiment génial. Contrairement. La bande originale est pas exceptionnelle, surtout quand tu compares à Santa Olala.
Elle est super.
Tu rigoles ou quoi?
Elle est ultra épique.
Moi, je trouve pas que ce soit.
Tu fais un coup de latte.
Je pense pas qu'elle marquera les esprits comme celle de The Last of Us, par exemple. Ouais.
Bah écoute, le thème.
Ça fait le job.
Oui, c'est vrai.
Non, mais attends, le thème revisité de Nathan déjà est carrément plus dark.
Plus dark.
Bien sûr. Mais on l'entend pas.
Ah ouais.
Ah ouais, tu l'entends peut-être une fois.
J'ai trouvé super cool.
Ce qui est dommage. Il y a beaucoup de musique pour les séquences de gunfight. Sinon, ce sont que des ambiances qui
et
sont
très
bien,
bien
un peu mystiques,
c'est
etc.
Génial, les ambiances,
ça accompagne très bien les séquences et c'est ce que j'ai dit dans mon test. Mais elle ne me marque, enfin, la bande originale ne m'a pas autant marqué et touché, je perds mes poils, que celle de The Last of Us par exemple.
Oui, qui est dans un autre registre aussi. Hein,
qui est dans un autre registre. Mais là, c'est moins marquant. C'est moins recherché, je trouve. C'est moins recherché.
D'accord.
C'est mon avis.
C'est ton avis, on va le respecter.
Juste pour revenir
pour l'instant, en
tout cas. Pour revenir à la grimpette.
Ouais. Romain va casser
le jeu. On parlait de la grimpette. C'est là où j'ai eu quelques bugs, moi.
Ah oui, alors des petits bugs, de collision essentiellement.
Ouais, une séquence où par exemple Nathan a la tête qui passe au travers d'un mur, où à un moment il était en train de grimper avec Sam, et là les deux ont fait la fusion.
Ils ont fusionné.
Bon, ouais.
J'avais la tête de Traz. Il m'a traumatisé. J'avais la tête de Nathan qui passait au travers du dos de Sam. C'était assez bizarre.
C'est assez exceptionnel. Mais tu t'es pas dit que c'était un clin d'œil à DBZ? Ouais. Quand même.
A vu comment c'était fait, non.
Bon, on va conclure un petit peu cette partie réservée à Uncharted 4, oui, pour parler maintenant du rythme global et du côté héroïque, j'ai envie de dire, de cet épisode. Mm-hmm. Est-ce que de ce côté-là, ils respectent vraiment Uncharted? Alors, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y ait peut-être il y avait des moments peut-être plus posés, plus calmes.
Oui, tout à fait. Des moments de vie.
Des choses qui n'existaient pas dans les précédents épisodes.
Oui,
hein.
C'est ça, c'est Neil Druckmann. Hein. Bien sûr, il a installé ces moments de vie qu'on avait aussi un petit peu dans The Last of Us. Enfin, tu sens sa patte, clairement. Mais oui, le rythme est totalement respecté. L'ADN est totalement respecté.
Parce
ce rythme,
pour,
ça, des
pour les personnes qui sont ici, je sais qu'on en a parlé avec Traz, mais ça commence vraiment à décoller, on va dire, à partir du chapitre 8. Voilà, là ça
oui,
commence, là ça y est le.
C'est ça. Oui. Enfin,
moi,
t'as quand même des belles séquences dans le chapitre
7.
Mais
l'horreur, c'est génial. Hein,
dans le chapitre 7, on a une belle séquence.
Mais les montagnes russes commencent à partir du chapitre 8.
Mais ce qui est génial,
là,
c'est qu'effectivement, ça monte vraiment crescendo de chapitre en chapitre.
Tout à fait, t'as le temps de te poser.
Et à partir du 8,
moi, les
là,
jeux
là,
qui
c'est...
démarrent tout de suite comme ça, c'est bon, on en a eu, on connaît.
Mais c'est bien fait, ça peut être bien.
C'est bien fait.
Mais ça retombe souvent quand ça démarre trop fort.
Pour moi, c'est brillant. Et là, ça va effectivement crescendo. Et à partir du chapitre 8, effectivement ça s'envole, mais t'as des séquences chapitre 11 il me semble, une séquence d'action avec du gunfight effectivement, mais qui va durer plusieurs minutes, ou qu'on a vu d'ailleurs, hein, c'est un des trailers qu'on avait vu à l'E3 il me semble.
Ah oui, d'accord. Celui de Madagascar
où tu celui de Madagascar en après, fait avec la voiture etc. Où tu t'accroches à là, je pense qu'il va s'énerver tout de suite.
Non, mais après, je me dis, mais on s'en fout, c'est du gunfight, c'est un détail, ça compte pas.
Mais c'est plutôt là, c'est vraiment plutôt axé sur l'action, parce que t'es accroché à la voiture, tu vas sauter, tu vas t'accrocher au pont, tu vas devoir remonter parce qu'il y a un bateau qui passe. C'est fantastique. Le goût du risque, le goût de l'adrénaline, le vrai.
L'agence tout risque.
Vraiment, c'est là.
L'agence tout risque.
Non, t'es pas obligé.
Pour du risque. Ah bah c'était. Tu vois, je pensais que tu préparé.
Non, j'en attends
Jennifer.
Ah merde.
Donc ouais, pour moi le rythme est vraiment respecté. C'est du Uncharted.
Et donc sans spoiler,
j'ai bien aimé les phases un peu plus lentes au début.
Ça m'a pas gêné.
Hein, et moi donc, non plus. Le truc.
Je pense pas que ça pose quand même le truc et tout. Enfin, c'est, ça
bah,
change
tu,
quoi.
Tu vois qu'en fait, tu vois que Nathan est dans une situation différente. Il a un point de sa vie qui est pas du tout le même que précédemment. Et
il montre cet aspect-là.
T'en viens à ressentir les mêmes choses que lui.
T'as
une belle vie. Mais malgré tout, il te manque un truc. En fait, tu comprends ce qui lui arrive, son tiraillement, etc. Enfin, moi, j'ai bien aimé les séquences un peu humaines du début.
Quand il est sur Elena dans le canapé.
C'est ce qui est pas faux.
C'est pas un spoil, hein, tout le monde l'a vu, ça. Donc,
D'accord, donc au final, toi, t'as été complètement conquise.
Ben, moi, je suis conquise et je trouve en plus que, donc sans spoiler, hein, que c'est une fin parfaite.
Ouais,
c'est
vraiment
une fin, pour moi c'est une fin parfaite.
D'accord. C'est qu'ils ont fait très très fort.
Exactement. Enfin, donc voilà, alors je pense qu'elle va diviser très clairement ça, ils en avaient parlé, hein, Neil Druckmann en avait parlé lors d'une interview. Effectivement, certains joueurs seront peut-être pas d'accord, mais pour moi c'est la fin parfaite pour Nathan Drake.
D'accord. Bon, voilà, au pire, il y aura une pétition.
Oui,
au pire, Naughty Dog changera.
Est-ce que tu penses que les gens vont réclamer un DLC avec une fin alternative?
Non, il y aura un DLC solo qui va arriver.
Non, je veux dire un DLC avec une fin alternative comme pour Mass Effect.
Mais au moins, les fins alternatives,
c'est pas
ça
le genre à faire
ça. Ça finit comme ça, ça finit comme
ça. Je crois pas que ce soit le genre à faire ça, honnêtement.
Mais effectivement, ça va diviser. Et voilà, moi, j'ai été vraiment séduite. Rares ont été vraiment les jeux qui m'ont fait voyager à ce point. Je le dis d'ailleurs dans mon test. Il y a vraiment un côté humain. On a des personnages qui sont plus vrais, qui nous ressemblent plus.
Il semble qu'Elena ait gagné un petit peu en charisme, en épaisseur.
Les personnages sont plus denses, plus matures. En fait, plus humains. Et on s'attache vraiment à eux. Et c'est ça, je trouve, la force de la plume de Neil Druckmann. Il a ça en plus. Et il l'a vraiment apporté à Uncharted 4. On a du The Last of Us. Je vous en dis pas plus, mais il y a vraiment du The Last of Us.
Et les zombies
Il y a du The Last of Us.
Ok. Merde, j'aurais peut-être pas dû dire.
Et voilà. Donc je trouve ça assez exceptionnel. Avant de terminer, je sais que vous allez encore dire un mot aussi sur le solo, mais effectivement le multi est vraiment sympa avec des nouveautés, des sorts à utiliser, enfin des artefacts qui sont directement tirés de l'univers.
Mais oui. Moi qui suis pas multi, franchement, mais j'adore.
On a le sarcophage. Qu'on va pouvoir utiliser.
Attends, le sarcophage.
Le sarcophage du 1 qu'on va pouvoir utiliser.
Ça fait quoi ça?
Bah tu le déclenches et puis ça va tirer des boules, des esprits qui vont poursuivre tes ennemis, les affaiblir.
Oui, moi j'appelle ça des esprits, moi c'est pour ça.
Tout est tiré. Il y a même des pouvoirs qui sont tirés du comics et de la nouvelle que j'ai pas lu.
Ils vont encore le peaufiner, le multi. Ils vont apporter des trucs. Tout sera gratuit d'ailleurs.
Tout sera gratuit dans le multijoueur. On a également la possibilité de faire appel à des alliés sur le terrain. Ça bien évidemment moyennant finance, on peut ramasser des diamants sur le terrain
et t'as en tuant,
t'as des costumes, des skins, etc. Et alors il y a un truc qui m'a un petit peu gênée, parce qu'effectivement le choix n'est pas limité effectivement dans la sélection des personnages, et on va pouvoir se retrouver avec deux ou trois Nathan, deux ou trois Sully.
Oui,
ça casse un peu le
débat.
En termes de visibilité, tu te retrouves à courir, tu dis attends, c'est moi ou c'est toi là? Ah non, c'est toi.
L'important c'est de vérifier la couleur qu'il y a au-dessus, si c'est rouge ou c'est bleu.
Mais
c'est vrai que Carole a raison sur ce point là, c'est un peu bordélique.
Mais
c'est pour ça qu'il faut changer de skin dès que tu peux, parce que
moi
j'avais mon petit Soli
en
costard, moi j'étais très content.
C'est classe, c'est classe. Mais Soli il est trop classe, quoi.
Bah évidemment, c'est
moi, les quelques parties du multi d'Uncharted 4 que j'ai pu faire, mon équipe c'était à chaque fois que Nathan.
C'est un peu dommage.
Ils connaissent pas les vrais bails, moi c'est Soli le meilleur.
De toute façon, en vérité tu joues pas à Uncharted pour le multi, quoi.
Non.
Ah ouais, je vais prendre Uncharted parce que le multi, vraiment, moi la campagne solo, non, je la fais
c'est
pas.
Vraiment
c'est
à part, c'est
plutôt le multi.
C'est oui, c'est un truc à part, non, mais qui a son petit succès, hein, sinon il l'aurait parfait. Donc,
c'est un ajout intéressant, voilà, qui donne encore plus de densité au jeu, mais bon, après, voilà.
Bon, alors, au final,
personne n'a parlé des méchants du jeu, tant pis.
Le méchant du jeu qui ressemble à Stephen Baldwin, comme c'est pas permis.
Le
ou l'est. C'est un peu ça.
De quoi?
Le ou l'est.
Le ou l'est. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais il y en a un ou une plutôt qu'on connaît.
Ouais, Nadine.
Que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Nadine Morano.
Elle est très jolie.
Puis elle même, elle est bien.
Elle est tellement naturelle.
C'est le classique coup du. Comme on a pu voir dans Deadpool, le vilain britannique. mais ça passe encore une fois très bien. Bref, est-ce que c'était le jeu que la PS4 attendait?
Oui.
Clairement.
Ah oui, oui,
oui. Voilà. Ah oui, de toute façon. Oui, c'est le jeu.
Je suis absolument pas déçu.
Je suis absolument pas déçu. Et voilà. Et pour moi, c'est le jeu de l'année. On va en parler pendant longtemps. C'est le plus beau jeu de la PS4. Le plus beau jeu actuellement.
Ah, tu t'emballes, toi.
Et je pense que, voilà, je n'ai plus rien
à
dire. Je m'en vais.
D'accord. Très bien. Bah, écoute,
je voulais rebondir sur ce que disait Romain au début de phase Uncharted.
Ouais. T'es vraiment monté sur Romain, quoi.
Mais non, au contraire. J'étais pas tout à fait d'accord avec ce que. Si, j'étais d'accord avec ce que tu disais.
Ok, là c'est trop confus là.
Non. Quand tu disais qu'Uncharted, t'avais l'impression que c'était un jeu de fin de vie de la console. Bah justement, c'est ça qui est fou. C'est que le jeu, ils l'ont sûrement commencé il y a au moins 3 ans. Ils le sortent maintenant. Donc la PS4, elle est pas sortie il y a 10 ans. Donc j'imagine que si ils refont The Last of Us 2 ou peut-être un autre Uncharted, j'en sais rien. Mais au secours, comment ils vont faire? Parce qu'ils
laisse
ont l'habitude
tomber.
D'aller à 100 000% de la console.
Là, ils seront aidés par la PS4K, justement.
Mais oui,
ça serait flippant.
Si PS4K il y a.
Bien
oui,
sûr.
Oui, évidemment.
Ouais, il y aura.
Ah, mais moi, une charte de 4K, j'achète tout de suite. Hein.
Non, mais laisse tomber. Non, mais déjà, tu sens, j'en dis pas plus, mais tu sens, vous allez voir, hein, notamment vers la fin du jeu, et je pense que Poufy sera d'accord.
Ou pas.
Tu sens qu'il y a des prémices, enfin, limite, ils ont tenté des trucs par rapport à The Last of Us 2.
Ah, bah,
tu sens qu'il y a des trucs. Et d'ailleurs, la relation entre les personnages, c'est ce que je disais, c'est vraiment Joël et Ellie. Et d'ailleurs, petit point noir, j'en ai trouvé un.
Ah, ça y est, enfin.
T'as le syndrome du binôme que personne ne voit.
Ouais.
Tu te souviens, vous vous souvenez, Ellie, elle pouvait passer devant les ennemis, on la voyait pas, elle était
détente. T'as ça aussi pendant les phases. Mais non, ils se cachent pendant les phases d'infiltration.
Oui,
Sam.
Mais ils peuvent passer, que ce soit Sam ou Sully ou. Alors, ils peuvent passer, on les voit pas.
Oui,
machin.
Ça j'ai remarqué.
Ouais.
Moi, quand j'étais dans les phases d'infiltration aussi.
Ça m'a pas gêné plus que ça m'a fait sourire.
Oui, c'est un moment j'étais planqué derrière un mur, il y avait un ennemi qui était pile genre dans mon axe.
Possible.
Et là, t'as Sam qui passe juste à côté comme ça.
Ça va. Voilà, ça.
Mais ça c'est. Mais ça c'est effroyable.
Ça m'a pas gêné, c'est pas. Ça m'est arrivé une ou deux fois.
Ah, mais c'est même moi qui vais lancer la pétition, je pense, hein, pour Uncharted.
Allez, arrête un peu, regarde,
arrête,
je le dis, non, je le dis.
Ta parole, qu'est-ce
que
tu racontes ?
Je le dis, et je le dis dans mon test aussi, je ne suis pas de mauvaise foi. Maintenant, c'est bon, j'ai failli mettre 10 sur 5, alors arrêtez. Hein.
Ah, 10 sur 5
Bon, de toute façon, j'attendrai de le finir avant d'avoir un vrai avis, je faisais juste l'avocat du diable.
Un vrai avis, nous, on n'a pas un vrai avis.
Non, mon avis, je parle, parce que j'ai pas un vrai avis pour l'instant. Moi, j'ai un avis d'un mec qui a fait 9 chapitres, c'est complètement grotesque.
Durée de vie vraiment honorable. Honorable, parce que c'est le plus long d'ailleurs des Uncharted.
Le plus long et le plus bon.
et le plus dense.
Plus c'est long, plus c'est
tiède. Plus c'est bon.
Bon, et eh ben voilà. Très bien, bah merci en tout cas pour.
Merci Carole, tu peux partir.
Ce nouveau test presque dans ce podcast, on va passer
oui, un peu ça.
Au deuxième thème qui va lui aussi nous faire voyager bah, en Afrique cette fois. Direction le Cameroun,
Saint-Gaffrica.
Bah, c'est un peu ça, ouais. On a envie de revoir les matchs de Roger Milla avec le Cameroun dans les années 90. On a envie de Yannick Noah qui chante Saint-Gaffrica. Bref, c'est pour parler de Orion. L'héritage des Coriodan, donc qui est sorti le 14 avril dernier sur Steam, mais on vient de vous rendre le test là sur Gameblog et j'avais envie de revenir dessus parce que j'ai passé un moment enchanteur sur ce jeu qui a mis 13 ans quand même à être fait. Olivier Madiba, donc qui est le
Besancenot.
Pas Besancenot, qu'est-ce que tu racontes, qui est le patron de Kiro Games qui a pondu ce jeu, y a mis je pense à peu près tout son cœur avec son équipe. Ça a mis du temps avant d'arriver et le résultat donc de ce qu'on avait présenté comme un Tales of africain et c'est à la hauteur de ce qu'on attendait. Alors peut-être pas au niveau du gameplay, mais en tout cas au niveau de l'identité, au niveau de l'histoire des personnages, c'est alors on va pas dire que c'est du jamais vu, mais en tout cas c'est d'une originalité qui est quand même assez assez dingue. Il y a beaucoup d'éléments évidemment qui sont repris des mythes, des traditions africaines. Tu peux voir dans les décors, dans les costumes, que c'est très inspiré évidemment du berceau de l'humanité, hein, comme on l'appelle. Et rien que pour ça, ça donne donc des graphismes qui ont été entièrement dessinés à la main, qui sont très chaleureux. Il y a vraiment une ambiance, une atmosphère qui est soutenue en plus par des musiques qui sont vraiment cool, qui est très très bonne.
Ambiance pas comme ça.
Un peu. Et donc, il y a aussi un système de jeu qui a été mis en place qui fait un peu penser à du Dragon Ball, à du Naruto, à du Avatar, le dernier maître de l'air, parce que c'est des combats qui veulent être dynamiques avec des pouvoirs qui font un peu Goku, Son Goku quand il se concentre pour lâcher son plus gros Kamehameha. Bah là on a des pouvoirs aussi qui s'intègrent au jeu, avec parfois même en cinématique, hein, la plupart du temps, mais des espèces de confrontations de pouvoirs avec une espèce de jauge, hein, qu'apparaît pour dire tiens, lui a fait un plus gros rayon que l'autre et va défoncer l'autre. Enfin bref, ça fait énormément penser, comme je vous disais, donc à ces shonen qui ont bercé notre adolescence et qui continuent, hein, on va en reparler tout à l'heure de Dragon Ball, qui continuent à nous habiter un petit peu. Et donc niveau système de combat, c'est très dense, c'est très dynamique. Ça peut être du combat au corps à corps qui marche plutôt bien au début, mais au bout d'un moment ça se répète énormément. Et avec tous les pouvoirs qu'on va récupérer justement pour créer des trucs à l'écran, genre des boules de feu, des piliers de glace ou autres tourbillons d'air qui vont ensuite pouvoir fusionner pour créer encore d'autres pouvoirs. Au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond parce qu'il y a une facilité à utiliser ceci qui rend systémique certaines actions. Notamment le fait qu'on a en personnage de soutien bien la femme du personnage principal. C'est un des trucs les plus importants du jeu, c'est le rapport entre ces deux personnages principaux qui vont rester du début jusqu'à la fin ensemble, qui vont être un peu confrontés à des événements qu'ils ne maîtrisent pas. Pour faire un point rapido sur le scénar de base, c'est que vous héritez du royaume de Zama, vous appelez Enzo, vous héritez du royaume de Zama le jour de votre mariage avec Erin. Sauf que à ce moment-là, il y a le beau-frère qui débarque et qui dit non, non, pas comme ça que ça se passe ici. Et donc, coup d'état, il vous exile.
Ah, tiens, comme c'est.
Il vous exile et vous vous retrouvez à parcourir le monde pour essayer de. Déjà, un. Eh ben de récupérer suffisamment de pouvoir, de débloquer les piliers de l'âme de votre personnage, et puis ensuite tout simplement reconquérir le trône. Ça a l'air un peu simple au niveau du scénar, mais ça se complexifie énormément par la suite et ça devient très 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 dense, jusqu'à un point par moment où on est un peu perdu parce qu'il y a énormément de personnages dont on ignore justement les motivations, jusqu'à un final où là tout est expliqué, on sait exactement ce qui se passe et c'est complètement dingue. Alors là, les fans de Dragon Ball, ils seront aux anges, hein, c'est certain.
Ah, Romain.
Ah bah c'est sûr, hein, pour Romain ce serait.
Je pense qu'il aime bien les séquences de gunfight.
Alors, après oui non, après au niveau du gameplay c'est pas parfait, donc forcément ça va peut-être ça peut peut-être un peu jouer, mais au niveau du scénario des persos ça l'est en tout cas. J'ai pas grand chose à redire de ce côté-là. Encore une fois, si on doit juger un jeu uniquement, si on doit désosser comme une bagnole en jugeant les pièces, bon bah il passerait peut-être pas le contrôle technique à tous les niveaux, hein, mais son charme. Le charme que, dont dispose Orion, et en sachant évidemment les intentions des développeurs et en sachant les moyens qu'ils ont eu, parce que ça joue aussi, hein, je suis désolé, mais on doit prendre en compte aussi ce genre de choses.
Il est développé en Afrique, c'est ça? Ouais.
Absolument, au Cameroun. Yaoundé, il a été développé pendant 13 ans. Et en sachant tout ça, et ben on pardonne 2-3 petits trucs, on pardonne les petites coquilles dans les textes, on pardonne le fait que les animations soient un petit peu hachées, on pardonne les
gars. Moi, c'est ce que je notais en regardant les vidéos du jeu depuis tout à l'heure. Je trouve que les animations, on dirait les petites séquences en flash qu'il y avait sur le net beaucoup il y a une dizaine d'années. Et...
Bah, bon, attention, parce que la vidéo qu'on regarde nous rame un petit peu.
Oui, puis ça date aussi. Ça, c'est des séquences qui datent un petit peu. Mais bref, oui, les animations sont un peu hachées. Après. Bon bah les mecs ont dû faire des concessions, voilà, ils le disent, et de ce côté, enfin du reste, du côté de tout le reste, que ce soit juste la représentation visuelle, et puis je te dis l'atmosphère, l'ambiance, le côté unique vraiment de l'univers qui est dépeint par le jeu, bah ça rattrape le tout quoi, vraiment, une fois que t'es plongé dans le jeu tu veux pas le lâcher, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé, j'ai dû le finir au bout de 20-25 heures hein, si je me rappelle, et ça a totalement fonctionné, c'est disponible sur Steam donc pour 19,99€, ça s'appelle Orion l'héritage des Coriodan, c'est un jeu que, ouais voilà, si vous êtes fan d'action RPG et de shonen,
beatable aussi quand même.
Non, pas vraiment, parce que comme je te dis, au bout d'un moment, oui, le côté baston, qui fait un peu Dragon Ball, s'estompe vraiment derrière un côté plus, on utilise des pouvoirs, on va recharger, on reprend un peu de vie, et on retourne avec les mêmes pouvoirs, on spam quoi un petit peu, au bout d'un moment, et donc, mais pour tout le reste, c'est parfait. Quoi. Vraiment bien wesh les mecs, j'ai envie de dire. Après, je sais pas si vous avez vous-même des questions par rapport à ce jeu. J'imagine que non, puisque vous me regardez tous avec des yeux un petit peu de merlan frit.
C'était plutôt une bonne initiative. Il a été kickstarté. Hein,
ouais, il a été kickstarté, il est passé par Greenlight. Il a connu beaucoup d'étapes de développement.
En 13 ans, j'imagine.
Ouais, et il a charmé beaucoup de monde au passage. Ouais, il avait été soutenu, je crois, par les. Divinity Original Sin, je sais plus, il y avait un RPG que tu avais testé.
Divinity Original Sin, c'est ça, ouais, c'est celui-là, ouais.
Que tu avais beaucoup aimé d'ailleurs, hein, si je me rappelle, sur PS4. Bah voilà, les développeurs
la édition en plus.
Les développeurs de Divinity avaient totalement soutenu Orion, plus d'autres développeurs. Et pour moi, ils s'y sont pas trompés. Et ça ne peut être que très encourageant par rapport à ce que va nous proposer par la suite le studio. En tout cas, si. Ça leur permet d'avoir encore plus de moyens pour mettre en place les jeux dont ils ont envie. Et si en plus ça nous permet nous d'être dépaysés avec des jeux qui se passent un petit peu de un petit groupe d'ados qui vont essayer de sauver le monde avec des mécas qui apparaissent de temps en temps. Ça peut changer un petit peu en termes d'univers. Franchement, je pense qu'on est gagnant.
Oui,
ça apporte de la variété.
Il faut
du dépaysement.
Il faut des jeux comme ça aussi.
Exactement.
Tout à fait. Moi, je suis totalement pour cette
heureusement.
Cette vague de jeux indés qui arrive, on a vraiment de très 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 belles choses. D'ailleurs, en ce moment, je suis sur The Park.
Ouais.
C'est moche comme tout.
Et
mais
ou pas
ouais, c'est l'ambiance, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel, non. Bon, bref.
Yep.
C'est un autre débat. Mais oui, il faut avoir des jeux comme ça. Il faut une diversité et vive la diversité, heureusement.
Et vive l'Afrique, j'ai envie de dire aussi au passage.
Hein.
Voilà.
Voilà. Absolument.
Bon. Et ben on va passer au thème numéro 3. Il y a que moi qui ai parlé. Hein. Dans le thème 2, vous m'avez un peu déçu.
Ah bah c'est toi qui l'as fini en 25 heures.
Ouais, mais bon, vous m'avez déçu quand même. Alors on va passer au thème numéro 3. Et là, c'est toi, Carole, qui va l'ouvrir à fond.
Arrête. D'habitude, je vais ouvrir ma gueule.
Tu vas ouvrir les vannes, même, j'ai envie de dire. Arrête. Parce qu'on va parler de quelque chose que tu connais plutôt bien.
Arrête.
Bah si, je te le dis, moi, on va parler du nouveau Call of Duty. Parce que oui, il y a un Call of Duty en 2016. C'est incroyable. Personne n'y croyait.
Personne n'y
croyait. Ici, tout le monde pensait que ça allait être annulé, qu'il n'y aurait plus jamais de Call of Duty.
En fait, moi, je l'annoncerai deux jours avant cette sortie.
Alors on passe là la BO du trailer donc qui est paru un petit peu en avance par rapport aux prévisions hein. C'était ce lundi on était le 2 mai et bien on a eu droit au premier trailer de moderne
de Infinite Warfare,
Call of Duty Infinite Warfare,
la guerre interminable.
Et alors là, stupeur et tremblement, j'ai envie de dire.
C'est vrai.
On se disait ça allait être futuriste, on imaginait peut-être pas à quel point ça allait être futuriste.
Bah, en fait, le truc c'est que il y avait déjà eu des fuites. Moi, je savais effectivement les combats dans l'espace, avaient été évoqués sur Twitter, etc. Voilà. Et donc j'ai pas été très surprise, mais le fait de le voir et que ça se confirme, moi ça me fait peur.
Ah bon.
Ça me fait peur. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de jouer à Star Wars Battlefront là. Oh. Ok. J'ai pas envie de regarder Star Wars, parce que si j'ai envie de regarder Star Wars, je m'achète le Blu-ray si tu veux.
Je pensais plutôt à Halo, mais d'accord.
Ou Star Wars. Mais il y a beaucoup du Halo. Ouais. Bah, pour moi, c'est vraiment du des combats dans l'espace. Ça peut être bien. J'attends d'avoir les mains dessus pour avoir un avis définitif. Là, on a vu qu'un trailer qui dure pas très longtemps. En
puis
plus.
Avec une reprise de Space Oddity de David Bowie.
Exactement. Très, très
alors
bon.
Attendez, j'essaie de retrouver le nom. C'est Lady Heroine. Alors voilà. Si vous avez aimé, bah, tant mieux pour vous. Moi, je suis absolument pas fan de cette musique.
Moi, j'aime bien. Mais en tout cas, alors après, ça a l'air d'envoyer du lourd, c'est beau, il y a pas de problème, mais les combats dans l'espace, le côté futuriste, tu veux
que je te
dise
prendre un vaisseau et tout, tu veux que je te dise
ouais, mais j'ai pas envie de faire ça dans Call of Duty. Enfin, moi j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu aux origines de la série. Je pense que c'est en train de se perdre. Je me trompe peut-être, hein,
peut-être Battlefield qui fera ça.
Je vais adorer. C'est peut-être Battlefield qui fera ça, voilà.
Champ de bataille.
Mais mais l'appel du devoir, c'est quand même pas mal.
C'est pas mal aussi.
Et effectivement, ben bon, avec la traduction à la con là.
Ouais, ça suffit.
J'ai envie de dire, j'attends effectivement d'avoir le jeu en main pour pouvoir en parler plus. Mais
je suis sûr qu'il a kiffé même dans l'espace.
Non, ça me fait un petit peu peur. À mon avis, ils vont vendre. Tu sais ce qui va faire vendre
avant de passer là-dessus. Moi, j'ai lu des déclarations des développeurs d'Infinity War au sujet
de déclaration d'impôt.
Et ils, entre autres. Et ils expliquaient, enfin, ils insistaient bien sur le fait que ça restait du combat humain contre humain.
D'accord. Dans, donc pas Titanfall.
Non. Et voilà, il disait que finalement le jeu auquel les joueurs d'Infinite Warfare pourraient plus faire référence, la licence à laquelle ils pourraient plus faire référence, c'est Call of Duty. Ils disent, ils renient pas du tout l'ADN de la série. Malgré l'espace, ça reste du combat donc humain contre humain, et pas de, faut pas s'attendre à rentrer dans des robots ou des trucs comme ça et à affronter.
Il y aura pas des Sparrow dans lesquels on pourra rentrer avec Cortana qui nous parle.
Non. Bon, j'ai pas l'impression.
C'est bien et foutu donc, quand même. Hein.
Ouais. Le trailer, quand je l'ai regardé, je me suis dit ça a l'air de... Bon, après les campagnes de Call of Duty sont toujours assez impressionnantes. Il y a un travail sur la mise en scène.
Bien sûr.
Mais là, ça a l'air assez impressionnant. En plus, les transitions, et ça aussi, c'est un autre point sur lequel ils ont insisté. Les transitions seamless, comme ils disent, tu sais, sans coupure, entre le moment où tu es sur Terre, au moment où tu es sur Terre, et tu prends ton vaisseau et tu te retrouves, retrouves dans l'espace.
C'est génial. Ça mais c'est vrai que, étant une grosse fan de la licence, j'avais espéré un retour un peu aux sources. Et j'ai un peu peur. Mais après, ce ne sont que des spéculations. Là, vraiment, on peut pas dire ça va être bien, ça va être pas bien. Effectivement, ça va apporter autre chose, ces combats dans l'espace. Et donc voilà, on sait qu'on va avoir une Legacy édition. Et je pense qu'effectivement, c'est elle qui va faire vendre.
Mais pourquoi donc est-ce qu'elle va faire vendre cette Legacy? Enfin, il y a d'autres éditions aussi, je me rappelle plus les noms.
Il y a d'autres éditions, bien sûr, mais dans les trois éditions spéciales, on aura.
On aura quoi? Vas-y, dis-le.
On aura la version remasters de Modern Warfare. Tépi.
Ah.
Et je pense que c'est ça qui va vendre. D'ailleurs, on a vu quelques images, même on a vu des comparatifs graphiques de cette nouvelle version remasterisée et de la version originale.
Super HD.
Franchement, ils ont fait un beau boulot, et à mon avis, c'est ça qui va doser les joueurs, quoi.
Mais c'est ça dont
on a envie.
Alors en justement, fait, d'un côté, c'est vachement bien.
C'est une super idée.
Mais parce qu'en plus, il aura des serveurs dédiés. Enfin, tu vois, ça va être un jeu.
Uniquement 10 maps, par contre.
10 maps au lieu de 16.
Au lieu de 16
sur la version originale, ouais.
Mais c'est pas un peu dommage, parce qu'ils vont remporter Noël avec ça, c'est évident.
Ça, c'est clair.
C'est pas un peu dommage de capitaliser plus sur cette version, évidemment mythique, hein, puisque c'est elle qui a vraiment fait décoller Call of Duty, comme peu de jeux ont pu décoller. Comme cette série. Est-ce que c'est pas un peu dommage justement de miser énormément là-dessus cette année?
C'est bien, je trouve, justement, en fait, au lieu de voir le verre à demi vide, faut le voir à demi plein. Je trouve que c'est pas dommage de miser, de pas miser que là-dessus. Je trouve que c'est bien de miser aussi sur ça. Ils vont faire d'une pierre deux coups. Maintenant, il faut pas que ce soit au détriment de ce nouvel épisode Infinite Warfare. Mais
t'as pas peur que justement les gens en plus aient plus envie d'acheter Modern Warfare que Infinite Warfare?
Du coup, ils achèteront les deux.
Bah oui, c'est ça. de toute façon.
C'est bien joué.
Mais voilà, d'un point de vue, d'un point de vue marketing, c'est une. Enfin, Activision a fait ce qu'il devait faire. Après, en fait, les seules personnes pour qui c'est dommage, ce sont les fans de Modern Warfare qui n'étaient intéressés que par ce jeu-là.
Ouais.
Eux, ils seront obligés.
À la base, il n'y avait pas ça.
Non.
Donc,
Ben voilà, mais.
Non, mais s'il n'y avait pas eu ça, ils n'auraient peut-être pas acheté. Ils auraient peut-être pas acheté Infinity Warfare, tu vois.
Attention, peut-être qu'Activision, peu de temps après, ils vont le vendre en solo. Hein. On verra.
Peut-être.
Pour l'instant, c'est pas prévu.
Ça serait pas une bonne idée.
Peut-être que leurs plans changeront dans 6 mois.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais en tout cas, effectivement, moi, ça me fait un petit peu peur, voilà, ce côté futuriste. Mais on a Modern Warfare derrière qui vient un peu pallier à ce manque de, comment dire, de Seconde Guerre mondiale, quoi.
Alors. Première version de Call of Duty qui est exclusivement next-gen aussi. Il sort sur PC, PS4 et Xbox One, mais pas 360 et pas
tout
PS3.
Tout à fait.
Donc ça, c'est une bonne chose.
Ah oui.
Ça prouve qu'au moins ils sont concentrés vraiment sur,
exactement.
Sur le top,
là,
top des vedettes.
Voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, on va avoir un beau spectacle.
Avec des explosions dans l'espace.
Exactement, des explosions dans l'espace. Mais moi, je te dis, hein, je viens encore de voir le.
Dans l'espace,
justement, tiens,
on dirait du Star Wars.
On a fait un sondage, nous, sur Gameblog à ce sujet. Et justement, tu vas nous donner les résultats, Carole. Attention, roulement de tambour.
Un petit sondage d'ailleurs qui est assez proche de celui que j'ai fait moi-même sur mon Twitter.
Absolument.
Donc,
est-ce qu'on s'en serait pas inspiré? Je me pose la question.
Je pense que vous m'avez totalement recopié. Vous êtes des copiteurs. C'est peut-être le contraire,
dis-nous.
Je ne sais pas. Donc on a eu 20%
qui estiment que le jeu est top. D'accord. Enfin,
donc
ils pensent que le jeu est top.
Voilà. Qui sont dosés par le trailer. On a 9% qui s'attendaient à mieux.
Mm-hmm.
C'est pas énorme. Et là, attention, les gros chiffres.
Vas-y.
On a 37% qui trouvent ça trop futuriste.
Ah.
J'ai pas voté, hein.
C'est vrai.
Mais si j'avais voté, je pense que c'est ce que j'aurais voté. Et on a 32% qui s'en cognent totalement.
D'accord.
Voilà.
Et 100% qui vont l'acheter.
Et 100% qui vont l'acheter. C'est
sûr.
Ça le pire. Mais
c'est là,
c'est
le mot de la fin. Salut, merci.
C'est ça le pire. Donc.
Après, ils s'en cognent, mais parce qu'on a vu qu'un trailer pour l'instant.
Oui.
Alors peut-être
oui.
que plus la communication autour du jeu va s'accélérer, peut-être que Activision a encore des cartouches en réserve.
Oui,
mais
c'est sûr.
Surtout qu'on ne connaît pas encore le casting intégral et à chaque fois il y a quelque chose.
Qui risque d'être pas mal.
Voilà. On a vu du zombie aussi ou pas?
On a vu du zombie.
Non, on l'a pas vu.
Ça a été annoncé.
Ils ont dit qu'il y en aurait.
Ça a été annoncé. Et apparemment, ça va être pas mal. Ça va être assez novateur, encore une fois. Mais déjà, le zombie de Black Ops 3 est mortel. Enfin, moi, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et aussi beaucoup de temps sur Black Ops 3. Pour moi, Black Ops 3 est vraiment top. C'est vraiment un bel épisode. J'avais adoré Advanced Warfare aussi. Hein. Donc, peut-être qu'Infinite Warfare aussi va être top. Hein. Moi, honnêtement, je suis amoureuse de la série. Mais on sent qu'il y a quand même une certaine fatigue au sein de la communauté. Alors...
Bah c'est peut-être pour ça qu'Infinity Ward aussi a recruté Brian Orton, qui a travaillé sur Rise of the Tomb Raider, pour apporter un peu de sang frais aussi, peut-être justement
à la
licence.
Un peu de nouveauté, ouais. On va voir, mais.
Et il faut se dire aussi que maintenant, la licence Call of Duty tourne sur 3 studios différents.
Oui,
c'est ça.
Donc, ça veut dire que cet épisode-là. Le développement a commencé il y a 3 ans. La fatigue vis-à-vis de l'univers futuriste, etc., au moment où ce projet-là a été lancé, n'était peut-être pas aussi prononcée qu'elle l'est maintenant.
C'est clair.
Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un temps d'inertie avant que les changements puissent s'opérer vraiment. Donc tu vois, moi ça m'étonnerait pas qu'il retourne prochainement dans le passé, comme les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le réclament, mais forcément il fallait attendre que ça puisse se faire vis-à-vis des cycles de développement.
Mais ça permet de les peaufiner aussi.
D'où Modern Warfare,
oui.
Remastered.
Exactement.
Remasterisé.
Remaster.
Alors, ça sort quand, ma petite Carole?
Le 4 novembre, bien sûr.
4
novembre.
La date anniversaire, hein, on s'en doutait pas.
Sur PS4, PC, Xbox One.
Exactement. Et donc, voilà, pour un Call of Duty exclusivement génération actuelle. Donc voilà, ça va être beau, c'est sûr. Hein, maintenant, à voir ce que nous réserve la campagne solo, les surprises en termes de casting, et puis voilà, ce que ça va donner ces combats dans l'espace. Est-ce que ça va être trop futuriste ou est-ce que ça va être mortel en fait? Est-ce que l'ambiance va rester très Call of Duty ou est-ce que ça va être trop du n'importe quoi en mode Star Wars quoi?
En tout cas, on n'aura pas la réponse à l'E3 puisque Activision ne sera pas.
Non, ils seront pas à l'E3.
Oui, mais alors
ils seront
que...
dans les chambres d'hôtel, mais
ouais,
après.
Bah ouais, déjà, ouais. Moi, j'ai, l'année dernière, les jeux Activision s'étaient présentés hors salon, pas tous, mais certains.
Ouais.
Et après, c'est tout à fait possible qu'il y ait un partenariat avec Sony, par exemple, et qu'il y ait des bornes Call of Duty ou des rendez-vous Call of Duty sur le stand
exact.
Sony. Call of Duty l'année dernière n'était pas jouable sur le stand Activision. C'était des présentations sur des vidéos, donc c'était du hands off. Mais après, on verra. Moi, ça m'étonnerait qu'ils n'en parlent pas à l'E3, quoi. Ou en marge de l'E3.
Oui.
Très bien. On surveillera ça, comme d'habitude, et puis on verra à la fin de l'année.
On pourra jouer à Zelda.
Oh le troll.
Pourquoi c'est trop
On surveillera ça et on verra évidemment le 4 novembre.
Et c'est une fan de Zelda qui dit ça.
Ce Call of Duty.
Justement. Le mec qui déteste Zelda.
Ah moi j'ai rien dit, tu vois.
Les plumes qui étaient au milieu, qui savent plus quoi dire.
Si si, bien sûr que je sais quoi dire. Tu sais quoi? Il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie, vieux. Tu sais pourquoi?
Parce qu'il y a
qu'on va parler
aussi.
Des hors-jeux. Et oui, cette semaine, comme chaque semaine, on va vous parler un peu séries, sorties, films, Netflix. Séries, j'ai déjà dit Netflix.
Bouquins,
ou pas ouais, bouquins. Bref, des trucs un peu culturels qui sont pas trop loin de notre domaine de compétences. Mais quand même parfois assez, notamment quand on parle de restaurants comme l'a fait Johnny Wan il n'y a pas très longtemps. On va commencer avec toi, Carole.
Absolument.
Toi, tu vas nous parler d'une maison de bourgeois.
Absolument, une maison
qui est située dans un quartier très bourgeois.
Très bourgeois de Paris, ouais. Place des Vosges.
Exactement.
Si vous êtes parisien, vous connaissez très certainement. C'est un très beau quartier, une très jolie place, très élégante.
Un square que j'ai défoncé à coup de ballon de foot.
Exact. Ah oui ?
Dans mon enfance.
Ah bah dis donc, c'est pas beau tout ça.
Ouais. N'a plus loin maintenant, je crois.
En tout cas, moi, je jouais pas là-bas. Moi, j'étais à Marseille à cette époque. Et donc une place qui cache un hôtel particulier, qui cache lui-même
Dominique Strauss-Kahn.
Absolument, mais c'était là, hein,
ouais, c'était
exactement
là qu'il habitait.
Mais il n'y a pas que lui qui a habité là-bas, il y a Victor Hugo aussi.
Ah, il y en a plein. Hein.
Et donc voilà, moi j'y suis allée il y a peut-être un mois et demi avec Julien, un mois et demi, deux mois. Et j'ai trouvé ça fantastique. Donc c'est la maison de Victor Hugo. Il
la
habitait au deuxième étage, pendant 16 ans, il a loué cet appartement.
À des prix autrement moins prohibitifs qu'aujourd'hui, évidemment.
J'imagine, ouais.
Absolument. Il habitait au deuxième étage. Hein. Il y habitait donc.
Il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas la loi travail non plus à l'époque.
C'était un petit peu plus facile. Ouais. Et donc c'est un musée qui est gratuit. Hein. On peut laisser une petite donation si ça nous a plu, etc. C'est assez petit. On a 7 pièces en enfilade.
Ah bah oui, c'est vrai que c'est un petit appart. C'est
surtout place
du
tout.
Exactement. Oh là là, écoutez, voilà.
Bicoque,
sympathique, n'est-ce pas? Et donc on va visiter toutes ces pièces qui vont évoquer la vie de Victor Hugo. Donc là, vous le voyez, hein, si vous êtes premium, vous voyez les très belles images, les très belles pièces très chargées.
Il y a quoi? Un audio guide? Il y a des bouquins?
Alors, tu as un audio guide si tu le souhaites ou pas. Ouais. Mais effectivement, tu peux prendre un audio guide. Et donc, ces 7 pièces vont évoquer la vie de Victor Hugo avant l'exil, pendant l'exil et depuis l'exil. Donc, on va avoir par exemple une pièce qui m'a fortement marquée, qui est toute décorée dans un style chinois avec des belles assiettes, des jolis vases, des tapisseries très denses, avec de très belles décorations. On a également des reproductions à l'identique, quasi à l'identique, des pièces quand il habite rue Delo, il me semble, avenue Delo.
Là, j'en ai aucune idée.
Il me semble, je l'avais
peut-être
noté. Je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est ça, avenue Delo.
La bataille d'Elo, tu connais?
Exactement, ouais, c'est beau. Hello, Elodie, tu veux dire? Avenue Delo, et donc on a cette reproduction de sa chambre mortuaire, par exemple. C'est vraiment très joli, très impressionnant. On en apprend un petit peu plus sur la vie de Victor Hugo. Donc voilà, si vous vous y intéressez un petit peu plus, vous pouvez également faire des visites guidées. Le jour où on est allé effectivement visiter, il y avait un guide qui expliquait pas mal de choses. On s'est un petit peu incrusté derrière pour entendre, voilà, pour un peu écouter.
Sans
mais très vite, on s'est fait dégager.
C'est vrai.
Mais voilà, ça va très vite. Hein. Ça met même pas une heure, quoi. Enfin, si vous prenez le temps de tout bien regarder, il y a des peintures, il y a des sculptures, des grands tableaux.
C'est chargé.
Tout un tas d'objets. Voilà, c'est chargé. Des lettres, des manuscrits. C'est vraiment très intéressant. Mais voilà, ça prend pas plus d'une heure, en tout cas, à visiter ces 7 pièces. C'est au deuxième étage, c'est vraiment très joli et voilà, c'est vraiment une visite à faire parce que c'est quand même une personnalité, hein, Victor Hugo, et donc voilà, ça permet de s'immerger un petit peu dans sa vie et d'en apprendre un peu plus sur cet illustre personnage, voilà, et c'est gratuit encore une fois, donc c'est cool.
Très bien, et on vous invite à regarder évidemment Les Miséroïdes,
voilà.
Totalement inspiré
Les
Miséroïdes
de Victor Hugo. On va passer maintenant
Valjean t'es qu'un trace.
Bref.
T'es qu'un trase.
Oui, salut, ça va être à toi de parler de ton hors-jeu de la semaine. Un hors-jeu qui est totalement, mais alors
moi, ça va être triste. J'ai presque envie de vous lire la note de l'éditeur.
J'allais dire super,
du bouquin.
Super joyeux, mais
non, c'est flippant.
Mais tu veux nous en parler maintenant?
Bah alors j'ai pas le bouquin avec moi parce qu'il est chez moi caché, je sais plus où.
D'accord.
Regardez,
ça s'appelle
ceux qui ont la vidéo. Ça s'appelle Vous êtes fous d'avaler ceci.
T'as besoin de regarder quand même pour t'en rappeler, hein.
Mais non, mais je voulais décrire ce qu'il y avait écrit en bas. Un industriel de l'agroalimentaire dénonce. Et puis un guide de survie en magasin aussi, donc c'est super important d'acheter ce bouquin.
Fais voir, je peux.
Donc il dénonce quoi?
Bah c'est un ancien mec qui travaillait dans l'agroalimentaire pendant plus de 20 ans je crois.
Ouais, ouais.
Qui a écrit un bouquin.
Donc
sur...
il s'appelle Christophe Brusset.
Christophe Brusset, pardon, voilà.
Ça fait peur.
Qui a écrit un bouquin justement sur
Oui, enfin c'est juste un papier imprimé, hein, donc je sais pas pourquoi vous le passez.
Non, mais...
si vous êtes
tout ce que l'on ingurgite.
Vous êtes fou d'avaler ça et je sais
tout ce que l'on ingurgite.
Ça va parler,
si vous êtes premium, c'est absolument grotesque qu'on nous passe juste un truc qu'on a imprimé. Voilà, c'est tout.
Tout ce que l'on ingurgite quand on va au supermarché et qu'on achète des produits manufacture.
C'est bon, j'ai ça, super il est trop bon. Très très bon. C'est pas
mais
comme contenu.
Le bouquin il est vraiment flippant parce qu'il raconte des choses mais immondes.
Par exemple, est-ce que t'as une anecdote en particulier qui t'a vraiment mais genre écœuré, qui tu t'es dit là j'aurais très bouffé ça.
De la bouffe qui vient de Chine avec des crottes de rats dedans.
Bon, ça c'est habituel.
Mais non.
Ici, parce que les normes d'hygiène là-bas, évidemment, elles sont.
Tu sais, en Chine, ils filaient du lait et du silicone au bébé.
Ah oui, c'est voilà. Vrai.
Enfin, je veux dire,
on met, des bouts de verre dans la gelatine.
En fait, quand, ils font des tests sur plein ouais. de produits, ils se rendent compte que même s'il y a des quantités infimes de d'excréments, de machin, de bidule, bah, il y en a quand même. Même sur des produits que tu pensais bons et tout machin.
De l'excrément dans les boulettes Ikea.
En fait, c'est flippant quoi.
Et à long terme, ça joue énormément sur notre santé, j'imagine.
Bah oui, après, je sais pas si les crottes de rats peuvent nous tuer, mais bon, il y a d'autres trucs dégueulasses quoi, genre du chlore dans des bidules. Je sais pas, j'ai pas d'exemple forcément hyper précis en tête parce que je l'ai lu il y a un petit bout de temps déjà, mais c'est vrai que ça fait super peur quoi. Ça fait ultra peur. Et du coup, bah.
T'as changé tes habitudes alimentaires du coup ?
Je fais plus attention qu'avant, mais bon, après, c'est compliqué parce que. T'as pas forcément ça tout le temps en tête en disant
oui,
attends,
tu dis
si
attends,
ça
fait 30 piges que je bouffe ça.
Ouais, c'est ça, c'est compliqué.
De toute façon.
Parce que même si t'achètes des trucs bio et tout, il y a plein de trucs bio, bah, on l'a vu dans récente actualité, c'est pas forcément des trucs hyper sains. Si le mec a décidé que c'était d'abord son profit au détriment du reste, quoi, de la santé. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas. Il faut déjà arrêter de tuer des animaux en trop grand nombre pour commencer. Voilà, c'était c'est mon
bidon. Non, mais c'est un beau
message. Non, mais ça fait flippant, quoi. Ça fait
là,
flipper,
vous entendez ce que Traz nous dit quasiment tous les jours.
Exactement.
Non, mais moi, je vous dis...
Lui qui appelle au meurtre tous les jours, quand même, il
au
milieu
de la...
En fait, on peut tuer
des
humains en plus grande quantité, mais des animaux en plus petite quantité.
Alors, tu vois, ici, il y a des petits exemples là, sur la note de l'éditeur qui est marrant. Piment indien rempli de crottes de souris, thé vert de Chine bourré de pesticides.
Ouais, normal.
Faux safran marocain, viande de cheval transformée en bœuf.
Ah bah ça, on
confiture
a bien
de
connu,
fraises sans fraises. Alors ça c'est plutôt balèze. Confiture de fraises sans fraises.
C'est de la bonne maman parce que j'ai acheté de la bonne maman hier.
Je crois que ça vient de Chine aussi. Ils arrivent à faire de la confiture de fraises sans fraises.
Bah ouais, ils reproduisent le goût. Oui,
au secours.
C'est, pas...
oui,
c'est
ça,
des fraises tagada en
c'est
fait.
Oui, mais justement, au bout d'un moment, c'est que des trucs chimiques dégueux qui nuisent effectivement à la santé. Au bout de, je sais pas, de trois pots, c'est bon.
Tu voulais nous plomber quoi aujourd'hui, c'est ça ?
Bah non, mais voilà, mettre en garde sur. avec ce bouquin. Le mec, il a quand même mis 20 ans pour écrire ce bouquin en se disant putain, mais ça fait 20 ans que je fais ce boulot de merde. D'ailleurs, c'est son intro, je crois, de mémoire. Il dit putain, ça fait 20 ans que je fais ça, mais je me rends compte que c'est de pire en pire. Ce que je fais, je cautionne des trucs absolument immondes. Je peux plus faire ça, donc du coup il a démissionné et il s'est dit putain je vais écrire ce bouquin quoi parce que
c'est faut bien gagner de la thune quand même.
Bah, il est toujours en vie
quelque part, oui c'est vrai.
Mais... Il s'est pas fait avoir par un tueur à gages.
Non, je crois que personne ouais. lui a fait de procès ou machin.
Bon.
Voilà quoi, c'est. J'aime bien sa fin, c'est soyons directs. Ce qui intéresse les industriels, c'est votre argent, pas votre bonheur ni votre santé.
Ah bon ?
Voilà, bon appétit. Bah
alors ça c'est la première nouvelle de l'année.
Bon appétit les gars.
Alors, entre ça et Call of Duty qui sort cette année, ouais.
Tu sais plus quoi faire.
Là c'est la journée des découvertes quoi.
La journée des surprises.
C'est ça. C'est
heureusement qu'il y a
Uncharted
4 hein, pour nous remonter le moral.
Franchement.
Parce que...
hein.
Bah, non mais le problème c'est que c'est plein de trucs connus comme ça, on sait qu'il y a plein de trucs dégueux des machins, mais on continue quand même quelque part aussi nous à cautionner ce genre de merde.
C'est pas fou.
Parce que si on les achète, c'est que les mecs vont continuer à le faire.
Bah, parce que c'est bon surtout. Le problème, c'est que tout ce qui est, si tout ce qui a du goût, c'est les trucs, trucs industriels et dégueulasses, c'est gras.
Un petit piment à la merde de souris.
Mais ça, malheureusement, tu peux pas le deviner. Par contre, ce que tu peux commencer à faire, enfin, moi, je le fais depuis très longtemps maintenant, c'est regarder les envers des produits, regarder tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Je vous jure que quand vous faites ça, vous vous rendez compte à quel point on bouffe vraiment de la merde. Et c'est flippant. Bah, donc allez sur le net, essayez de voir tous les produits pas bons, genre, mais notez-le, moi c'est ce que j'ai fait.
Après, tapez méthode de suicide, indolore.
Voilà. Non, mais vraiment, hein, t'as vraiment des produits nocifs à long terme, genre au bout de 10-15 ans, bah, qui fait que tu vas choper des cancers, des maladies à la con.
Non, mais j'en suis convaincu.
Tout le monde
convaincue.
Le sait, hein, on le sait ça. Hein.
Bah, ouais.
On le sait très bien. Hein. Bah, si c'est des petites doses, bah, au bout de 15-20 ans, bah, t'attrapes des merdes. Et on se dit, bah, putain, pourquoi il y a autant plus de cancers qu'avant là, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pour tout ça, quoi. Après, il y a leur environnement qui joue aussi, mais...
Bon, avant, on mourait à 30 ans aussi, hein, mais bon...
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, mais, ça, c'est... Oui, mais on mourait à 30 ans de maladies, pas forcément de polyphosphate dégueulasse ou de machin de bidule dans le corps, tu vois. Des maladies, à l'époque...
Je préfère mourir à 80 ans d'un polyphosphate qu'à 30 ans de la lèpre.
Oui, mais tu me mords
bah,
pas.
Surtout que t'es dans ta 30e année, donc ça serait un peu.
Ouais, bah là, ça veut dire que non, mais là, je serai en fin de vie.
À chaque époque, ses problèmes et ses maladies.
Je parle de cancer,
mais
quand t'as des gamins qui ont des cancers et ils sont emmenés, tu te dis, attends, il y a un problème quoi. Et on sait très bien que par exemple, dans les biberons, par exemple, t'avais le bisphénol A qui est interdit maintenant.
Mais qu'on retrouve quand même.
C'est interdit depuis 3 ans.
On le retrouve quand même aujourd'hui.
C'est flippant quoi.
Ouais.
Donc ça veut dire que pendant 60 ans ou je sais pas combien, bah, les bébés ont bu.
C'est comme tout, à partir du moment où t'as pas assez de recul sur un produit ou une utilisation.
Non, mais il y a pas assez de recul, mais il y a aussi beaucoup les industriels qui disent non, mais vous inquiétez pas, tout va bien, c'est rien du tout. Alors qu'ils savent très bien que c'est dégueulasse.
Les études qui sont pipotées.
Oui, ben
voilà. Enfin bon, évidemment. Franchement, t'as plombé l'ambiance là. J'ai envie de passer immédiatement à mon hors jeu qui est beaucoup plus joyeux.
Passons à ton hors jeu.
On va passer à mon hors jeu parce que c'est carrément un autre niveau de, je veux dire, de barre de rire, j'ai envie de dire. On va parler de Game of Thrones. Game of Thrones,
c'est une série
ultra joyeuse que vous connaissez bien, qui est arrivée dans sa 6ème saison. Là, ça y est, ça a recommencé. Si vous êtes accro comme moi, eh ben, vous pouvez la regarder le lundi matin, à partir de 3h du matin. Bon, bah là, c'est la version US. Hein, vous la retrouvez exactement comme elle est diffusée au même moment chez nos amis outre-Atlantique. Mais vous pouvez aussi attendre. Et là, c'est ce que je fais en général, le lundi en fin de journée pour pouvoir vous battre en VO sous-titré français. Alors, il faut savoir que c'est diffusé sur OCS City, donc à 3h du matin, et sur OCS Go après à la demande. OCS, c'est un des bouquets Orange qui est disponible en France, et ça permet de découvrir une nouvelle saison, ma foi, qui reste un petit peu dans la lignée des précédentes, à savoir que y a des gens qui meurent tout le temps, en permanence. Des trahisons, vous en avez à peu près tout le temps aussi. Alors là, du cul, pour l'instant, j'en ai pas vu. Mais à mon avis, il va y en avoir pas mal aussi. Là, je crois qu'on en est après tout ce qui est paru en bouquin. Il y a quelques petites surprises, quelques petites réponses aussi, notamment à la fin du deuxième épisode. Il y a une belle réponse, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas ça a été spoilé mais en masse sur Twitter, ce qui d'ailleurs me permet de passer un coup de gueule sur les gens qui s'amusent justement à mettre tiens, il se passe ça à la fin de tel épisode, plus mettre une image pour être sûr qu'on va pas le louper. Bon, bravo, j'ai envie de dire, puis surtout allez vous faire foutre. et en tout cas, pour l'instant, je suis pas trop déçu par ce qui se trame pour cette saison 6.
Ah, c'est 6, je crois que c'était 4, moi.
Non, on est à la 6 là. Et ça s'annonce plutôt pas mal, ça augure de belles petites batailles et des plans sympas pour certains des personnages, notamment la petite alors attendez, il faut que je me rappelle de son nom. Elle est incarnée par Missy Williams.
Elle a un cul d'enfer.
Non, Arya. Pas du tout. Arya, voilà, la petite Arya Stark qui
Ariane de Dorothée.
Je peux pas en dire trop parce qu'après je vais une fois de plus spoiler, mais c'est il va se passer des trucs sympas pour elle aussi.
C'est mieux que Conan le Barbare ou pas?
Pourquoi non. Je comparerais?
Je sais pas, comme ça, pour te faire chier.
Ok, bah je vais dire oui. Voilà. Voilà, c'est mieux. Bref, Game of Thrones.
Est-ce que les phases de tir de Game of Thrones sont meilleures que celles de Charles?
Carrément, mais alors là, on est dans un autre niveau. Bref, on va passer au dernier hors-jeu de la semaine, Romain.
Oui.
Romain, toi, tu vas nous faire le point sur un dessin animé qui parle beaucoup de karaoké, de passage d'aspirateur, de cuisine.
Passage d'aspirateur.
C'est donc
Dragon Ball Super.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que Dragon Ball Super, là, on vient de passer le cap des 40 premiers épisodes. C'est le 41e qui a été diffusé au Japon dimanche dernier.
Et tu voulais faire un point.
C'est vrai que c'est une série qui fait beaucoup parler depuis le début. J'avais envie de faire un petit point parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens qui ne s'y intéressent pas forcément de très près, ils ont gardé à l'esprit ces dessins horribles qu'on a pu avoir.
Qu'on peut voir d'ailleurs à l'écran si vous êtes premium, il y a des petits bouts de dessins horribles qui apparaissent.
Bah en fait, alors, si on se base uniquement sur la technique,
mais qui sont retravaillés pour les Blu-ray et DVD.
Ouais, mais alors là, en fait, sur les derniers épisodes diffusés, il y a du mieux à ce niveau-là. Mm. C'est pas encore parfait, mais Dragon Ball Z à l'époque n'était pas parfait non plus. Il y avait des épisodes qui étaient vraiment très moches. Là, on a quand même le droit à des plans vraiment très très beaux. Mm. Il y en a d'autres, des plans un peu plus éloignés ou des trucs comme ça qui sont moins réussis. Mais là, je sais pas si vous voyez les images qui passent depuis tout à l'heure. Il y a certains dessins qui sont dignes de ce que DBZ faisait. Quand il était.
Mais c'est moi, je vois Freezer à l'écran.
Non, alors en fait, non, c'est pas Freezer.
Ça, c'est Vegeta.
C'est couleur.
Il y a eu trois arcs dans Dragon Ball Super jusqu'à présent. Le premier, c'était une redite du film Battle of Gods.
Uh-huh.
Le deuxième, c'était une redite de la résurrection de Freezer. Ouais. Et là, maintenant, c'est vraiment un truc totalement inédit. Qui vient de se terminer d'ailleurs. C'était un tournoi.
Uh-huh.
Un tournoi intergalactique opposant, je vais pas rentrer dans les détails, l'univers 6 à l'univers 7. Et c'est pour ça que nos héros qu'on connaît, c'est l'univers 7.
Uh-huh.
Et dans l'univers 6, la personne un des deux organisateurs de ce tournoi a pris différents personnages dont l'équivalent dans l'univers 6 de Freezer. C'est pas Freezer, mais c'est la même race, c'est le même, c'est un équivalent, quoi.
Ah oui, ok.
Et donc
ça a l'air compliqué.
Et ben donc déjà, moi, ce que j'aime bien dans cette dernière séquence dernier arc de Dragon Ball Super, c'est qu'on a découvert plein de nouveaux personnages, donc et dont certains un peu originaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça se prend pas toujours au sérieux. Il y a des personnages un peu plus humoristiques, etc. Mm-hmm. Moi, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé dans l'univers de Dragon Ball, c'est quand c'est un peu drôle. Il y a eu un effort certain dans la mise en scène des combats. Là, pas dans le 41, mais peut-être dans le 39-40, je sais plus exactement lequel. Il y a eu un combat avec Goku qui m'a filé des frissons. Pour la première fois depuis que je regarde Dragon Ball Super, là j'étais vraiment de retour dans le vif du sujet. Et il s'est passé un truc vraiment génial. Et donc ouais, voilà, c'est intéressant en fait. Là maintenant, t'as envie de savoir ce qui va se passer dans l'épisode d'après. Et ils nous ont là, ils sont sur le point d'ouvrir une nouvelle intrigue. Il y a un autre tournoi plus ou moins qui va se déclencher. Et donc ouais, maintenant j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer après. On va certainement rencontrer encore d'autres nouveaux personnages. Il serait possible que d'anciens reviennent. Ça c'est vraiment de la supposition. Hein,
tu penses auquel en particulier?
Bah, le problème c'est que là c'est vraiment de la pure spéculation, mais c'est par rapport à ce qui c'est aux informations tirées des mangas qui ont été. Moi je me demande si c'est pas impossible que le Trunks du futur revienne.
D'accord.
C'est pas un spoiler hein, parce qu'il y a rien qui laisse présager de ça. C'est une supposition que je fais et qui est visiblement partagée par d'autres fans de Dragon Ball sur le net depuis plusieurs mois. En tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte de voir où les choses vont mener. J'espère que la technique va continuer de s'améliorer encore. J'aurais tendance à penser que les remarques venues de l'étranger sont arrivées jusqu'aux oreilles de la production. Alors peut-être que les fans japonais se sont plaints eux aussi, je n'en sais rien. Mais ouais, donc Dragon Ball Super, il y a du mieux, ça reste, c'est plus intéressant. On n'est pas encore arrivé à ce qu'était Dragon Ball Z à son sommet, mais c'est pas mal. Voilà.
Bon. Très bien, bon, on va suivre ça avec attention. Ça passe comment déjà? C'est le dimanche sur
Le dimanche matin sur Fuji TV au Japon. Malheureusement, pas encore de moyen légal de regarder ça en France.
Oh là 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 là.
La Toei a annoncé, Toei, comme ce que Julio m'a dit qu'il fallait pas dire Toei, c'était Toei. La Toei a annoncé que ça arriverait en France avant la fin 2016. Donc ça devrait plus être trop long. Moi j'ai entendu diverses choses. Je préfère pas en parler parce que j'ai pas pu vérifier. J'ai essayé de voir à droite à gauche si j'avais moyen de vérifier ce que j'avais entendu. Non, donc je ne dirai rien. Mais oui, sinon avant la fin de l'année en France, il y a de fortes chances qu'on ait ça.
Ah bah écoute, voilà. On regardera ça. On regardera les 10 premiers épisodes qui portent sur le karaoké, la cuisine et le passage d'aspirateur de Vegeta.
Pour le coup la curiosité que j'ai maintenant, c'est de savoir si, quand ils vont diffuser les premiers épisodes en France, est-ce qu'ils vont prendre les épisodes tels qu'ils ont été diffusés au Japon, ou est-ce qu'ils vont prendre les versions modifiées qui sont sorties en Blu-ray et DVD pour que les fans français et européens,
ça serait mieux,
puissent avoir une qualité visuelle améliorée. Je l'espère en tout cas.
Bon, on l'espère tous. En tout cas, voilà. Merci pour ce petit hors-jeu. Merci.
Je t'en prie.
Traz, qui préfère envoyer un SMS. Oui. Carole et Romain pour vos hors-jeux de cette semaine.
Ah ouais.
Et évidemment, merci pour le podcast de manière générale.
Bah, merci à toi,
encore
plus
une fois.
Vas-y, redis encore.
Merci.
T'es tellement convaincant à chaque fois que. Tu peux le refaire encore?
Merci d'avoir hosté comme un dieu vivant.
Dieu vivant.
Merci à vous surtout qui nous avez.
Merci à Poufi, la technique, formidable.
Je l'ai pas fait, tiens, merci à Poufi.
Merci Poufi.
Parce qu'il a un petit blâme par rapport à la semaine dernière, Poufi. Voilà, donc. Du coup, aujourd'hui, je remercie pas. La semaine prochaine, je reviendrai, mais pour cette semaine, je vais m'en passer. Merci quand même, Poufi. Merci à vous surtout qui nous avez.
Pas être méchant.
Regardez si vous êtes premium ou écoutez évidemment ce écoutez podcast. Les... N'hésitez pas, comme d'habitude, comme chaque semaine, dans les commentaires ci-dessous, là juste en dessous de moi, à poster bien votre avis sur le win, le fail, les thèmes qu'on a développés. Est-ce que Uncharted 4, par exemple, au moment où vous écouterez le podcast, vous y aurez joué peut-être? Peut-être que vous avez un avis qui est différent de celui de Carole, différent de celui de Romain, qui est totalement à l'encontre de ce que pense Carole. Hein. Vous l'avez noté au début de ce podcast. Il déteste Uncharted et moi aussi, je déteste Uncharted. Et je pense que Carole et Traz sont totalement de mauvaise foi. Enfin bref, c'est complètement faux ce que je viens de dire. Mais bref, si vous avez eh bien, des commentaires à faire sur le podcast, sur les thèmes que nous avons développés, surtout n'hésitez pas. Et pareil pour les hors-jeux, hein. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer une petite vidéo face cam à Julien en MP. Et peut-être qu'on la passera, même c'est sûr, on la passera par la suite. Voilà, merci à vous encore une fois de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Salut, salut.
Ciao.